Ah, voilà.
Et bonjour à tous les auditeurs, ici Max pour votre émission After Work Metal sur Radio B. Pour ce soir, comme vous avez pu l'entendre, donc je ne serai pas seul, voilà, et la dernière fois, je vous avais dit que nous n'allions pas parler métal ce soir, mais jeux vidéo. Aujourd'hui, on va plonger un petit peu au cœur des batailles, des stratégies et des empires avec la licence Age of Empires. Et pour cette occasion, donc, comme vous avez pu l'entendre au tout début, je me suis entouré un petit peu de passionnés de ce jeu. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Mike, gérant de l'Arcadium, salle de jeux vidéo de Bourg-en-Bresse, et Sébastien, l'un des meilleurs joueurs de la salle. Il ne le dira pas lui-même, mais il le sait.
Si, si.
Et c'est aussi donc un fan du jeu. Bonjour à vous deux, comment est-ce que ça va ?
Eh ben, salut Max, tout d'abord merci, merci pour cette invitation, merci à Radio B. Je suis désolé pour le petit tacle du micro, mais j'avais tellement peur que le micro soit fermé d'après ton anecdote précédente.
Et la trêve, c'est que ça marche.
Mais je vois ça. Et puis oui, effectivement, je suis en compagnie du roi des rois de ce Game of Age, enfin des Age of Empires qu'on fait souvent à la salle. Donc Sébastien, salut Sébastien.
Salut, salut. Mais que dire de plus ? Il a déjà tout dit. je ne peux que me montrer humble face à tous ces compliments, sinon je vais avoir l'air...
Un roi humble, c'est normal. C'est,
oui, c'est naturel,
c'est un peu le but.
Bien
sûr.
Il faut rester modeste quand on est roi, si on veut gouverner son peuple.
Mais je m'y attelle tous les jours.
Alors donc, tout au long de l'émission, on va pouvoir justement s'accompagner un petit peu de la musique emblématique de cette licence de jeu. Je vous ai préparé une petite bande sonore, donc extraite un peu des quatre jeux différents. On va pouvoir l'écouter. Donc, je vais la lancer un petit peu maintenant. Elle sera juste en fond pendant qu'on pourra parler sur l'émission. Ah, on va la caler comme ça, c'est parfait.
Un grand classique.
Ouais, les premiers.
Oh là là. Alors, ça réveille des vieux souvenirs. Hein.
Ça rappelle normalement des souvenirs. Donc on peut commencer, donc ouais, vous êtes donc penché un petit peu plus tôt que moi sur cette licence-là, justement, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit tous les deux que ce jeu-là c'était pour vous ?
Je vais commencer, je pense que je suis le plus vieux, hein ?
Pour l'instant oui.
Ok, alors quand j'ai commencé cette licence-là ? J'ai commencé cette licence-là sur Age of Empires 1 quand j'ai eu mon premier ordinateur par mes parents. En fait c'était un vieil IBM acheté d'occasion. Et le seul jeu qui tournait dessus, c'était Age of Empires 1. Donc j'ai commencé avec cette licence et puis après ça pique dans le sang. Hein. On reste accro à Edge et on parcourt les années qui passent avec cette licence. Dès qu'il y a un nouvel opus, il est dans la bibliothèque de jeux vidéo, quoi.
Ok. Et toi, du coup, Seb, comment c'est mené un petit peu ?
Moi, c'est mon père qui jouait. Moi, j'étais généralement sur la petite chaise à côté, je regardais un petit peu ébahi ce qui se passait sur l'écran. Je comprenais qui étaient les méchants, qui étaient... Bah, à l'époque, il est resté longtemps sur la campagne de Jeanne d'Arc, alors ça a été longtemps les Anglais qui étaient les Anglais, les Bourguignons.
Est-ce qu'il avait du mal à passer Orléans
Oui, je n'ai toujours pas fini la campagne, quelques 15 années plus tard. Mais...
ouais, donc ça fait quand même... ça fait des défis, justement, parce que quand on n'y arrive pas, on se relance, et puis tant qu'on n'y arrive pas, on continue.
Ouais, exactement. Exactement.
Il y a des campagnes que vous n'avez jamais fait encore ?
Je crois que moi je les ai... Alors le problème c'est que là il y a eu le Definitive Edition qui est sorti avec encore des DLC sur Age of Empires 2. Et il y a encore certaines campagnes que je n'ai pas eu encore l'occasion de faire. Mais on va dire les campagnes classiques du jeu Vanilla, ça a été poncé et reponcé dans toutes les difficultés possibles. Ouais.
Bah c'est là où on voit du coup l'expérience, parce que effectivement moi j'avoue que Edge je l'ai découvert un petit peu, donc en venant à l'Arcadium directement tiens tu connaîtrais pas ce petit jeu là et tout, tiens viens tester, et c'est pour ça en fait je le connaissais pas vraiment avant au final.
Je commence à avoir un petit peu la casquette de gourou justement sur Edge of Empires, parce que je suis très content d'avoir fédéré Edge of Empires à la salle et d'avoir une communauté grandissante. J'en connais pas beaucoup des salles de jeux vidéo aujourd'hui qui pratiquent Edge of Empires. Il y a beaucoup de joueurs en ligne qui jouent à Age of Empires, mais des salles de jeux vidéo, il y en a très peu. J'en fais l'expérience aujourd'hui parce que j'essaye de trouver d'autres communautés, d'autres joueurs, de d'autres salles pour essayer de tenter des rencontres. Mais c'est très difficile. On a commencé, on devait être 6 joueurs. Aujourd'hui, la dernière fois, on était 14. Mais je pense que si tout le monde est présent, on peut monter à une vingtaine, facilement.
Ouais, ça fait quand même des jolies parties après.
Ouais.
C'est sûr. Mais bon, après, tu te dis gourou de Edge, mais t'es gourou pour plein d'autres trucs différents. Mais ça, comme Battle for Middle-earth, enfin, des trucs.
Ah, mais après, jeux, mais après je suis piqué Seigneur Zano aussi. Mais...
T'essayes d'être le gourou de plein de trucs. Et,
tous les jeux de stratégie en temps réel en général.
Ouais, oui, je suis très fan, de RTS. Ouais, c'est...
On sent les années 90, hein. Tu serais pas un petit peu vieux quand même.
Ouais, j'ai 89, ouais, 89, mais je me considère 90 et pas années 80.
Donc on va revenir justement un petit peu pour les années 90. Ouais, donc dans les années 90, c'est quand même l'explosion du jeu PC. Ça passe de partout, tous les jeux PC sortent. Les machines donc, sont de plus en plus puissantes et peuvent justement accueillir des jeux un peu plus gros. C'est l'explosion avec Warcraft 2, avec Command & Conquer. Il y a plein de jeux comme ça qui se développent et tout. Voilà. Et vous, est-ce que vous y jouiez déjà un petit peu à cette époque-là ou est-ce que vous étiez un peu trop jeune?
Alors, vu que moi j'ai commencé à avoir mon premier PC à l'âge de 13 ans et à commencer avec la licence Age of Empires, j'ai découvert d'autres licences de RTS comme Warcraft, comme tu as cité. Empire aussi, il y a eu du Command & Conquer, effectivement, il y a eu le mythique jeu Starcraft aussi, la licence Blizzard, il y a eu du Kozax aussi, Kozax, un jeu très difficile en termes de RTS, parce qu'on a une limite de population qui est très, très haute, mais après, dernièrement, en termes de RTS, il y a du Total War qui est très très bon en termes de jeu stratégie. Mais oui, après RTS, après Age of Empires, ça reste quand même la base. Quoi. Ça reste la base.
C'était certainement un des types de jeux qui, par rapport aux capacités des machines de l'époque, était encore le plus immersif.
Oui.
Finalement, ça sollicitait. C'est quand même un jeu qui est extrêmement complexe dans ses mécaniques et qui permettait de développer pas mal de compétences finalement. On aimait travailler de partie en partie, on avait envie de réessayer pour faire mieux à chaque fois.
Oui, c'est
là
ça.
Où les autres jeux étaient un peu plus souvent expérimentaux, c'était la nouvelle machine, on essayait de faire quelque chose, ça passait pas trop mal, il y avait des problèmes, des lags, des bugs. Là, c'était assez simple comme jeu, c'était un peu comme les échecs, et puis finalement.
Ouais, non, mais c'est clairement ça. Et puis bah, la dernière fois, justement, j'ai bien vu que tu avais une véracité sur l'essai, le réessai, parce qu'on a tenté de faire une coop sur Age of Empires 2, sur une des parties où tu me disais que c'était infaisable de faire la médaille d'or. Avec les châteaux, c'était
le dernier succès de la définitive édition. Il devait y avoir au moins 350 succès. C'est
le dernier succès que t'as pas déverrouillé. On a tenté, mais on n'y est pas arrivé. Quoi. Pourtant, on a quand même les deux de l'expérience, mais on n'y est pas arrivé.
De toute façon, il se fait pas en coop.
Et justement, donc ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui est assez intéressant parce que ça se développait de plus en plus à cette époque-là. Donc c'est ça aussi qui devait plaire un petit peu, je pense, aux gens. C'est le fait de collecter des ressources, explorer une carte, pouvoir développer une armée, combattre. Il y avait beaucoup de stratégies, justement. C'est des jeux de stratégie où ça fait quand même appel à une certaine connaissance, où il faut quand même avoir une certaine idée un peu de la stratégie.
Je pense que, alors en fait, avant il y avait des grands classiques comme César où c'était des city building où en fait il y avait du craft, de la création de villes, mais il n'y avait jamais réellement de combat en temps réel, d'économie en temps réel, etc. Donc quand ce jeu il est arrivé, je pense que il est arrivé et puis au moment où il est arrivé, il y avait un système de d'apprentissage pour les débutants qui était très présent et je trouve qui est très efficace. Je me souviens là par mémoire sur Age of Empires 2, William Wallace, la campagne de William Wallace où il fallait déplacer le péon pour explorer la zone. Après, je trouve c'est il n'y a pas besoin d'être autodidacte pour faire du Age of Empires et dans tous les cas, si vous venez à la salle, je serai présent pour fédérer, ou d'autres joueurs le seront, mais dans tous les cas, je pense pas qu'il y a besoin d'avoir de connaissances précises en termes de RTS. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi.
Moi, je pense que c'est ce qui fait une des grosses forces justement de 7, parce que finalement, il y a eu beaucoup de STR à cette époque-là. Je pense que c'est ce qui fait que lui est resté comme un classique. Hein, on est d'accord, c'est clairement un classique.
Alors, STR redit déjà.
Stratégie en temps réel. Okay. Alors que Kozax en soi, ça reste un très très bon jeu. Je pense qu'on est amateurs tous les deux, mais moi à l'époque, je comprenais pas toutes les ficelles de Age of Empires 2 non plus à l'époque, mais j'étais très jeune. Là maintenant, ça va mieux. Mais Kozax, même maintenant, je trouve qu'il est très peu didactique. Alors qu'effectivement, Age of Empires 2, si on s'y met maintenant, on va avoir les missions où tu déplaces le péon.
Ouais.
T'as comme mission d'aller collecter un buff, de le ramener au forum. C'est très très pas à pas, alors que Kozax t'es lâché dans la faune sauvage et c'est...
Ouais, c'est vrai qu'après, Kozax attirait un peu plus les puristes et aujourd'hui, malheureusement, la licence s'est terminée. Mais du coup, je pense que c'est le fait du coup d'attirer un peu plus les puristes qui fait que la communauté s'est réduite petit à petit et a disparu. Mais non, Age of Empires, pour moi... Alors, je pense qu'il faut être malgré tout quand même être passionné de stratégie, aimer le team building... Et puis aimer aussi l'histoire, hein, parce que je pense qu'au niveau de l'histoire, on est quand même assez présent historiquement.
C'est exactement ce que j'allais dire, justement, tu vois, c'est ce que je trouve vraiment génial dans ce jeu, c'est que ça reprend vraiment des codes et puis des éléments historiques qui sont réalistes, qui sont avérés, qui sont vrais, justement, et donc, ça y ajoute un petit peu donc une part de liberté, mais ça part d'éléments historiques, d'événements, on va dire, que tu parlais des campagnes de Jeanne d'Arc, de William Wallace, de tout ce genre de choses, en fait. Il y a quand même un vrai fond d'histoire dedans, ce qui est quand même vachement intéressant.
Ah oui, mais c'est sûr. Moi, je prends mon cas personnel. Je ne sais pas si c'est Age of Empires ou le reste qui a accentué, enfin qui m'a donné la passion de l'histoire. Mais je pense que les jeux stratégie et notamment Age of Empires a accentué ma passion sur l'histoire et surtout pour l'époque médiévale. Ça, c'est sûr.
C'est vrai que c'est ce que je pensais, tu vois, je me suis dit que vous, à l'époque, justement, quand ça devait être sorti, il devait y avoir plein d'étudiants, un petit peu, soit comme vous, ou un petit peu plus vieux aussi, peut-être, hein, qui apprenaient presque plus l'histoire par Edge que par les cours d'histoire en eux-mêmes.
Ah oui, oui.
Ouais, oui, c'est clair. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore certains, moi le premier, hein, qui sortent des anecdotes qui sont issues de Edge of Empire. Après, il y a des bonnes choses à prendre, il y a des mauvaises choses. Ça reste un jeu vidéo, mais c'est un jeu vidéo qui fait malgré tout un effort de recherche archéologique et historique pour essayer de coller au plus près de la vérité et de la vraie histoire, quoi.
Il y a un peu une forme de vulgarisation finalement, parce que je pense que quand on s'intéresse à l'histoire, enfin, moi je sais qu'avec la campagne de Jeanne d'Arc, Bruce et compagnie, on avait dû approcher Jeanne d'Arc en cours d'histoire. Du coup, j'avais appris en avance un petit peu tout son parcours dans les grandes lignes, quoi, les grandes balises, la naissance à Don Rémy, etc. Où est-ce qu'elle brûle, où est-ce qu'elle... Enfin, voilà, différentes étapes de sa vie. Et c'est vrai, quand on arrive avec ça en cours, quand on a 9-10 ans et qu'on se rappelle de ça, alors qu'on ne l'a pas encore, évoqué, les profs, ils sont là, waouh,
ouais,
quel étudiant brillant, alors qu'en fait, c'est juste, t'as pas ouvert un livre, t'as passé toute la nuit sur le jeu. Alors, en soi, c'est vrai que c'est...
Il faut l'emmener à Chinon.
Ça reste un côté un peu fable, quoi. Il y a les grandes étapes qui sont bien marquées dans l'émission. Après, quand on s'intéresse plus à la vie, on voit que c'est beaucoup plus complexe. Ouais. Il n'y avait pas que 6 tribus, il y avait des sous-tribus, des tribus.
C'est quoi les termes de mission? C'est quoi? C'est 9 missions, je crois. 6 et 9 missions, généralement. Ils ont condensé vraiment l'histoire, oui.
Pas le choix, sinon ça ferait des missions.
C'est du condensé, mais c'était très bien, du moins à l'époque, ça a permis de retenir. Du condensé, oui, on peut dire qu'il colle à la vérité. Ouais.
D'accord. Et je pense que on parlait un peu de missions, de trucs comme ça. Donc dans Age of Empires, le principe, c'est d'incarner une civilisation. Et dans le 1, justement, il y en a quelques-uns qui sont quand même plutôt marquants. Même si j'ai pas joué beaucoup, pour moi, j'ai un peu retenu les Égyptiens, les Grecs et puis les Babyloniens. C'est quand même pas si mal de les jouer. On voit vraiment un peu la vie. Enfin, ça représente un petit peu quand même la vie, comment c'était fait à l'époque, avec les différents objets, les différentes spécificités de chaque.
L'âge de bronze, l'âge de fer, l'Antiquité. Enfin, moi, je sais que je jouais les Phéniciens. J'aimais bien jouer cette civilisation, parce que c'est une civilisation qui a évolué en étant Carthage par la suite, mais c'est une, enfin oui, c'est sûr que c'est des civilisations qui sont très proches de l'Antiquité. Mais par contre, le jeu, enfin, y rejouer maintenant, c'est un calvaire. Hein. Les formations, elles sont pas tenues.
Bah, honnêtement, je trouve que dans le 2, bon, ça passe un peu sur le côté historique, du coup, on parle plus de mécanique, mais dans le 2, l'instauration du siège des trébuchets, ça amène un gameplay beaucoup plus. Une manière de jouer, du coup, beaucoup plus on prend ses trébuchets, on arrive sur la base ennemie et on attend que les trébuchets fassent le travail pour faire sortir l'adversaire, ce qui n'est pas forcément stratégiquement très diversifié, alors que le 1, moi j'ai découvert après le 2, puisqu'il est ressorti après en édition remasterisée, le fait qu'il n'y ait plus de sièges, on se dit ah, on n'a plus que nos silex, on n'a plus que nos branches. Et donc, il faut qu'on aille sur Carthage, comment on fait, quoi. Et du coup, ça
permet. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est, mine de rien, c'est ce qui collait un petit peu à la réalité. Hein. Enfin, l'Empire romain qui avait des grosses unités de siège.
Ah oui. Je reproche pas aux Carthaginois de ne pas avoir de trébuchés, hein, c'est pas le problème.
Les trébuchés sont arrivés en Europe, par la Terre Sainte et pendant le Moyen-Âge. Donc c'est sûr qu'on le voit plus dans le 2 et on a plus le coutume de l'utiliser dans le 2 pour essayer de faire sortir l'ennemi que dans Age of Empires 1 où les portes, elles sont ridicules et il faut rentrer. Mais c'est vrai que quand je parlais de mécanique, moi, c'est la mécanique de vraiment, tu déplaces tes troupes, c'est aléatoire. Enfin, les troupes, elles font un peu n'importe quoi sur le champ de bataille. Tu peux pas les tenir en renfermé. Je veux dire, tu t'imagines une rangée d'hoplites, t'as envie de la tenir, tu peux pas la tenir parce que t'as un hoplite qui a décidé de courir après un loup, quoi. Enfin, ou un crocodile, quoi.
Surtout que les loups, ils sont voraces en plus.
Dans les jeux of Empires, je crois que j'ai fait un. Enfin, c'est pas des loups, c'est des crocodiles ou des lions.
Oui, c'est la... ouais, ça va avec l'époque.
Quoi. Ouais, c'est ça.
C'est vrai, faune un peu anticipée. Ouais. Alors, justement, donc, tu parlais tout à l'heure un petit peu donc, du développement en fait, en parlant des âges et tout ça. Donc, oui, dans Edge, on n'attaque pas tout de suite avec une civilisation méga développée avec tout plein de technologies et tout comme ça. Ça passe par le développement. Il y a l'âge sombre, il y a l'âge féodal, il y a l'âge des châteaux. Et il y a le dernier qui est l'âge impérial.
Est-ce qu'on peut dire que tu passes pas l'âge des châteaux, Max, à l'antenne ou pas?
Tout dépend, mais après, je le passe quand même. Après, tout le monde peut-être, sauf sur ces dernières parties, bien sûr.
Mais oui, bon, moi, c'est l'âge féodal. Hein.
Ça, c'est grâce à mes 15 paysans, c'est pour ça.
Ok.
Mais oui, il y a donc ce développement justement de différents âges qui représentent différentes.
C'est 4 âges, ouais.
Différentes période technologique, on va dire, pour chaque civilisation, justement. La première vaut mieux développer son économie et puis développer justement un petit peu l'exploration, parce que le but, c'est qu'on peut commencer, le plus intéressant, c'est de commencer les jeux en fait en ne voyant pas ce qu'il y a autour, en faisant les cartes
avec le brouillard de guerre,
le brouillard, justement. Donc c'est tout noir, on ne voit rien, et le but, c'est d'avoir donc un explorateur justement qui se balade un petit peu de partout pour découvrir le territoire. Et ça, c'est plutôt intéressant, justement. Donc c'est la partie un peu exploration, découverte, on sait pas vers quoi on va et tout ça. C'est plutôt intéressant, justement. Et après, justement, t'as d'autres, comme je disais, t'as l'âge féodal qui suit juste après, où là, tu as ta première structure militaire, tu commences à développer ton armée, ton truc comme ça. Ton économie est censée être bien en place, enfin surtout pour toi, parce que la mienne, elle se casse un peu la gueule assez souvent, mais...
Ouais, après, je pense pas être le pro de l'économie ici. Hein. Je pense que ça va être plus Sébastien qui sera mieux calé sur l'économie. Il a généralement tendance à avoir beaucoup d'argent et il en passe pas beaucoup, mais...
Mais on pourra couper ça.
Non, mais non, on va même le garder et l'amplifier. Donc, du coup, tu es riche, Sébastien. Donc, on peut en parler.
Je reste humble. C'est combien de temps qu'il faut rester humble sur l'antenne?
Ouais. Non, je sais pas. Après, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur les âges, comment
présenter un petit peu? Et ben, en fait, oui, effectivement, comme tu as cité, en fait, il y a 4 âges. Les âges se passent par le biais du forum. Par le biais du forum. Et ça c'est généralement dans tous les opus, sauf le dernier où on décide de créer un monument qui soit plus militaire ou technologique. Et effectivement, chaque âge a sa particularité technologique, où au début, on voit à l'âge sombre, on est vraiment très, très limité en termes d'armes. On a des hommes avec des massues. les villageois, ils ramassent très peu. Ils n'ont pas le métier à tisser. Faut développer le métier à tisser. Dès qu'ils vont attaquer un sanglier, ils sont 5 sangliers. On perd un villageois ou une villageoise. Enfin, c'est vrai que c'est l'âge sombre, quoi. C'est l'âge sombre. Après, l'âge féodal, on commence à avoir un peu plus de technologie. L'âge des châteaux, comme son nom l'indique, il y a les mythiques châteaux. On commence à avoir les religions qui apparaissent avec les moines. On commence à peser un petit peu dans le game à l'âge des châteaux, à commencer à attaquer un petit peu. On peut commencer à attaquer déjà des ennemis correctement à l'âge des châteaux, et après à l'âge impérial où c'est full amélioration.
Ouais. Alors j'ai souvenir, moi, de certaines parties, enfin surtout cette dernière, où je voyais légèrement, quand j'arrivais en exploration, une muraille de château, en fait, qui était juste en fait à la place d'avoir des murs. Il y avait plein de châteaux construits. Je dirais pas qui les construisait, voilà. Il y a certains joueurs qui sont assez vicieux là-dessus.
C'est pas moi, c'est Evan.
Chaque joueur à la salle a plutôt ses spécificités sur sa stratégie, mais effectivement, il y en a qui vont plus s'axer sur la partie défense château. Le problème, c'est que les châteaux, les murailles, âge impérial, ça sert un peu plus à... Enfin, ça sert un peu à plus rien, puisque on a l'apparition d'armes de siège un peu plus conséquentes, comme historiquement ça a été fait, hein, donc des canons de bombarde, là on parle un peu plus d'Age of Empires 2, Age of Empires 2 et Age of Empires 4, mais il y a l'apparition des canons de bombarde, d'engins de siège qui peut démolir très rapidement les châteaux. Donc là, il faut changer un peu de stratégie et puis passer plus sur une stratégie militaire terrestre de troupes que une stratégie défensive, quoi.
Finalement, en soi, l'intérêt stratégique, je pense que à côté du fait que les 4 âges sont matérialisés par des époques entre guillemets, c'est aussi différentes phases stratégiques. L'âge sombre, finalement, c'est un âge qui est très axé collecte de ressources, prise de vision, recherche d'informations sur le terrain en face, on prend son éclaireur, on cherche où sont les ressources, où sont les mines, comment est configurée la carte. Donc c'est plus ces compétences-là que ça va mobiliser. Mmh. À l'âge 2, on va pouvoir commencer de produire des troupes. Donc on va plus être sur une stratégie qui est de mobilité avec... on va commencer peut-être de faire de la cavalerie, de déplacer ces unités. Mmh. Et à l'âge 3, du coup, il y a les châteaux qui apparaissent. Et là, on va pouvoir commencer à établir une stratégie
soit défensive, soit agressive.
Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est-à-dire mettre un gros bâtiment défensif à un endroit pour sécuriser tel lieu stratégique, on va pouvoir commencer de le faire à l'âge des châteaux. Mmh. Et à l'âge impérial, on va dire que c'est là où que les civilisations, finalement, peuvent s'affirmer dans leur personnalité, puisque c'est là qu'ils vont pouvoir faire leur technologie... technologie unique, leur unité unique.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est différentes phases en fait. De,
alors, du coup, je pense qu'on peut clairement dire que vous êtes toujours dans la phase un peu attaque. Hein. Il y a la défense, c'est. Ah bon. On sait que la défense est bonne, mais l'attaque, elle est là pour déglinguer tout le monde. Moi, du coup, tu dirais quoi ? Enfin, à part qu'elle est inexistante, on peut dire qu'elle est un peu défensive.
Alors, si on doit faire un petit tour de la table, je pense que je vais analyser mon collègue Sébastien. Okay. Sébastien, je pense que si personne l'agresse, il va se stuffer très correctement, et à l'âge impérial, il va sortir les dents si on l'agresse pas avant. Moi, j'arrive à utiliser deux casquettes, même si je me considère pas très bon rusher. Mais je vais vraiment essayer de viser une opportunité pour pouvoir présenter mon armée, mais je vais être plus joueur défensif, je pense, que agressif.
Ah bon.
On est d'accord, parce que je ne le voyais pas du tout. Mais on l'a préparé le texte avant, on a dit que j'étais joueur défensif, Sébastien, ouais, tu te souviens, c'est ce qu'on avait dit.
C'est vrai, il est très défensif.
Tu défends ton armée sur le terrain en attaquant.
Je ne suis pas quelqu'un d'agressif, c'est pour le business vrai, que je dis ça, tu comprends, Sébastien.
Je comprends, oui. Dans le genre d'Arcadium, on est vraiment quelqu'un de pacifique.
On l'appelle le bisounours.
Et puis, toi, Max, on va dire que c'est la découverte des États-Unis, des Amériques. Hein, c'est partir avec très peu d'hommes, tenter une action et se rendre compte que finalement, il manque quelques unités derrière. Voilà. Mais après...
Est-ce qu'attaquer un château avec trois archers, ça suffit ?
Non, ça ne suffit pas, Max. Mais après, je trouve, on va le dire à la radio, comme ça au moins ça sera enregistré.
Oh, c'est beau.
Je trouve que tu as fait quand même des progrès depuis plus d'un an que tu viens au Game of Edge. Mm. Il était temps. Parce que moi, je suis resté sur une amère constatation de 5 villageois à l'impérial. À l'âge impérial pour tenir une économie, c'était...
Je sais pas, pour comparer, toi, à l'âge impérial, t'as combien de villageois ?
J'en ai à peu près une soixantaine.
Ouais, bah tu vois, 5, 60.
Ouais, on y est, ouais.
C'est à peu près pareil.
Ouais, on y est.
C'est kiff-kiff.
Ouais. Mais c'est bien, parce que toi, t'avais beaucoup de logements disponibles pour 5 villageois. C'est intéressant. Ouais.
Mais j'anticipe, genre, les problématiques de la ville. Ah là là. Alors, tu vas voir, j'ai préparé mon texte aux petits oignons. Alors là, la suite, t'es pas prêt. Je vais la mettre un peu en mode médiéval. Gentes dames et nobles seigneurs, il est temps pour nous, preux chevaliers, de déposer un petit peu l'épée et de laisser donc la place aux douces mélodies du royaume. Accordez vos oreilles et reposez vos armures, car voici venue une petite pause musicale sans nos voix, pour vous reposer un peu, aux couleurs donc de Edge of Empire. Que les cordes du luth vous transportent entre châteaux forts et champs de bataille, le temps d'un instant hors du tumulte des guerres.
Excuse-moi, tu l'as brodé ça ? Parce que je le vois pas sur le texte, Max.
Il vient de l'inventer.
Tu viens de l'inventer à l'instant, ça.
Ouais, parce que j'ai vu vos têtes et ça m'a inspiré.
Ah ok,
ça,
bah, ça marche. Bon, bah,
mon bouffon du roi.
Allez, bonne pub.
Il est naze sur le jeu, mais il est pas trop badour.
Je suis plus le bouffon du roi, mais pas de toi, enfin de l'autre vrai roi, normalement.
Oui, allez, ça suffit, coupe le micro.
Mais il est pas là, c'est pas... Allez, quittez pas votre poste, chers auditeurs. On revient justement après ces petits airs d'antan pour reprendre notre conquête.
Thank you.
Et on est donc de retour sur Radio B après ce petit temps musical tiré donc de Age of Empires 1, qui était donc un jeu sorti quand même en 97, ça date un petit peu. On est toujours avec Sébastien et Mike. Ça va, la pause était bien ?
Très bien, super. Très bien.
Ouais, le moratoire est bon.
On a eu le temps en 2 minutes de faire une partie.
C'est ça. Bon, après,
les méga rushers, même Marine Land, il est
mythique. Moi qui vais faire
avec
ça.
Mes 5 paysans, j'ai eu le temps de t'attaquer, puis sinon j'ai gagné.
C'est exactement ça.
Je suis le roi. Ah là là. On va donc parler un petit peu maintenant donc, du second volume, même si on y a déjà un petit peu attaqué avant. Hein. Donc le second volume qui est sorti donc seulement 2 ans après le premier, donc en 99.
Ouais, très rapide.
99, ouais, donc ils sont assez, on va surfer un petit peu sur la vague, je pense qu'ils ont dû dire ça. Alors pour le premier, j'avais 1 an, donc je pouvais pas y jouer. Pour le deuxième, bon, bah, j'avais 3 ans, je pouvais toujours pas y jouer, mais vous y avez joué justement aux deux, et c'est un petit peu la révolution, non ?
Ah oui, complètement. Et, enfin, on est, entre le 1 et le 2, c'était vraiment le jour et la nuit, sachant qu'en plus, on a pas parlé, c'est que le 1, il a eu son extension. Il y a eu une extension qui est sortie 1 an après la sortie du 1. Ça veut dire que Microsoft, à l'époque, ils avaient vraiment une mine d'or, quoi. Entre les mains, ils ont bossé sur l'extension, et entre l'extension, ils ont bossé sur la sortie de Age of Empires 2. Et la jouabilité, elle était différente. On avait une meilleure 3D, un pack texture qui était énorme. Les troupes pouvaient être en formation, ce que je reprochais au 1, là, les touches, les troupes pouvaient être en formation. C'est le planogramme du jeu avait complètement changé. La cinématique du début, on en parlait en off, là, la cinématique du début avec la partie d'échecs, incroyable. Enfin, je ferme les yeux, je la vois, quoi. Là, on attaque les vraies missions aussi historiques. Bon, il y en avait dans le 1, mais missions historiques très occidentales avec. Occidentales, il y en avait aussi orientales, mais. On se souvient de Jeanne d'Arc, on se souvient de celle de William Wallace où il fallait déplacer le petit paysan au début en didacticiel. Barberousse, très mythique, où il fallait trimballer le corps de Barberousse dans un chariot et le déposer à Jérusalem. C'était vraiment.
Alors, c'est assez historique.
Ouais.
Et donc ce nom, quand même, The Edge of Kings.
Ouais.
C'est ça, ouais.
L'âge des rois.
L'âge des rois. Bon, alors du coup, là, il n'y a qu'un seul roi présent ce soir, donc c'est compliqué. Mais...
Pourquoi l'âge des rois ? Parce qu'à l'époque, en Antiquité, c'est pas qu'il n'y avait pas de roi, mais il y a une domination romaine qui était déjà très présente. Et les rois sont vraiment arrivés au Moyen-Âge. Et des rois au Moyen-Âge, à l'époque du Moyen-Âge, il y en a eu énormément dans plusieurs pays. Ouais.
Mais c'est exactement ça, je pense, c'est que le Age of Empires 1 nous plongeait donc à l'Antiquité, Age of Empires 2, donc c'est plus côté Moyen-Âge avec les conquêtes,
exactement.
Les châteaux, les grandes figures héroïques, on a Jeanne d'Arc, on a
Saladin.
Voilà, c'est vraiment pour ça aussi que ça a peut-être plus marché, parce qu'au final c'était un peu le même jeu, il y avait bien sûr une évolution technique, mais je pense qu'il y a une meilleure identification. Un meilleur enthousiasme de la plupart de la population pour l'époque médiévale.
Ouais, je suis d'accord.
Peut-être à l'époque, ouais, justement.
L'époque antique.
En plus, c'était nommé des grands conquérants. Et ce que j'ai adoré avec Age of Empires, c'est qu'il n'y a pas eu. Je pense pas qu'il y ait des jeux comme ça, mais il n'y a pas eu de changement identitaire en fonction des peuples. On a joué un chevalier qui était repêché par Saladin. Et on suivait les croisades, mais du côté de Saladin, des Seljoukides. Et après, on a suivi aussi l'aventure de Genghis Khan. Enfin, il y a vraiment, je trouve, historiquement, ils ont placé vraiment ces personnages cultes de l'histoire au même niveau, quoi. Il y en a pas un qui était plus haut que l'autre. C'était vraiment des héros. Et puis même, je me souviens de la jaquette. On voit un roi, on voit un viking et on voit, on voit un sultan, quoi.
Socialiste dans mon accueil tout le monde.
Ils ont beaucoup affiné ça d'ailleurs, parce que je pense qu'ils ont compris après avoir fait le 3. Bon, le 3 c'était vraiment expérimental comparé au reste de la licence, j'ai l'impression que ça a eu du mal à fonctionner.
Ouais.
D'ailleurs, je crois que Microsoft avait dit, le PDG avait dit lui-même qu'il regrettait de ne pas avoir fait une nouvelle licence parce que c'était vraiment très différent et que le fait que ça ait été présenté comme Age of Empires 3, c'est moins.
Ouais, je pense qu'on va en parler un petit peu du Age 3. Est-ce que tu l'as noté dans ta trame? Deux lignes. Ok, deux lignes pour Age of Empires 3. On va passer très vite dessus.
C'est peut-être une de trop aussi.
mais effectivement, Age of Empires 3. Je pense que Age of Empires 3, ils sont inspirés d'un opus qui faisait concurrence à Age of Empires, qui était Warcraft. Warcraft avec des terrains beaucoup plus petits, une carte ronde, avec des plus grosses dynamiques de combat. En fait, c'était vraiment des parties beaucoup plus courtes et sur Warcraft. Du coup, je pense que Age of Empires a pensé qu'il perdait en fait une tendance et a cherché en fait à dynamiser Age of Empires 3 sur ce sujet-là. Et en fait, bah, ça n'a pas marché, quoi. Enfin, c'est pas ce qu'on recherche. En fait, on ne cherche pas un Warcraft 3 version médiévale.
Oui,
enfin,
ça,
version
oui,
le but, Renaissance.
C'est un peu une propre identité. C'est... Quoi.
Ouais, c'est ça.
Je pense qu'avec le 3, en fait, ils se sont dit. Comme on le fait souvent avec les livres et les séries maintenant, ils se sont dit « Ah, le 2 a vraiment bien marché, il est culte, est-ce qu'on ferait pas un nouvel opus ?» Et au final, ils se sont dit « Il faut qu'on se modernise. » Ils ont rajouté énormément de fonctionnalités, des explorateurs, ouais. des trésors,
un système de cartes,
ouais. un système d'âge, ou maintenant quand on
pense ouais, excuse-nous Max, en fait, dis-le-nous, en fait, on peut quitter l'émission, que... en fait, on est en train de faire l'émission à ta place.
Au final, j'avais pris 2 livres pour Edge 3 et puis 200 livres pour Edge 2.
Moi, je trouve que voilà, Edge of Empire 3, il est pas assez mis en valeur. Si on décide de mettre 3 pages sur Edge of Empire 3, on met 3 pages sur Edge of Empire 3, en fait.
Moi,
je quitte ce studio.
Bonne fois. J'ai enfin sorti le fou roi.
Le buzz. On va voir sur les grands titres là.
Allez, venez me voir à 2 rue Clavagris si vous voulez débattre avec moi sur le sujet.
Débattre ou te battre, c'est pas
ah, me battre, je pense que.
Non, mais même là, tu es le roi.
Merci, Max. Merci.
Ah, ah là là.
Donc, du coup, pour revenir à Edge of Empires 2.
Tu disais, donc voilà, c'est quand même un jeu qui amène beaucoup de révolutions en termes de gameplay, de mode de jeu, de trucs comme ça. Il y a quand même quelque chose qui se développe vraiment avec Edge 2, c'est le multijoueur.
Oui, alors le multijoueur en fait était présent un petit peu sur le 1, mais c'était une catastrophe. C'était parce qu'à l'époque, c'était la LAN, mais c'était pas la LAN avec du ce qu'on appelle du RJ45. Non, c'est pas Francis Lalanne, c'est merci la blague. C'était avec du coaxial et c'était un système de vis. Fallait sur un switch vissé, fallait souffler sur le. Enfin, c'était un calvaire sans nom pour créer une LAN. Edge of Empire, Edge of Empire 2 a un petit peu démocratisé ça. Au début, il me semble pas que c'était tout de suite disponible en ligne. C'était quand même de la LAN, mais plus efficace avec un protocole d'IP plus efficace. Mais après, bon, les puristes vont peut-être me dire que j'ai tort, mais moi j'ai senti que c'était beaucoup plus simple que Edge of Empire 1 de créer un réseau. Et après, effectivement, Internet est arrivé. Mais Internet est arrivé, je crois, à la période de la sortie de l'extension du DLC qui s'appelait Edge of Conqueror.
The Conqueror.
Ouais. Et du coup, là, on attaquait des nouvelles missions et on découvrait les Aztèques.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, parce que là, c'est quand même un jeu sur le Edge of Empire 2 où il y a quand même. On va voir si vous y connaisserez. Combien il y avait de civilisations avec la définitive édition, justement.
On est là pour parler stratégie, pas pour compter des civilisations.
Je sais pas, il y en avait combien.
Je pense que Sébastien, toi, t'es assez calé là-dessus. Je pense que l'arbre. Je te refile le bébé. Ouais, c'est comme ça. C'est les chaises musicales. T'as pas compris, c'est toi maintenant.
Là, c'est pas le juste prix, c'est le juste nombre.
Toi, tu dirais combien de civilisations
à l'époque
avec l'extension.
Avec la définitive, oui.
Avec l'extension. Là maintenant.
Avec la définitive.
Waouh. 40, hein. Ils ont sorti, mais en fait là maintenant c'est super compliqué à compter parce qu'ils ont pris ils ont pris la Chine, ils ont changé le gameplay de la Chine, ils ont rajouté des sous-cultures chinoises, ça fait un peu bizarre.
Ouais.
Ils ont rajouté des cultures chinoises spécifiques de l'époque.
Moi je dirais 45.
Eh ben toi tout à l'heure t'en étais pas loin, c'est ben il y en a 42.
Non mais 40, 40, 45, on en est
40,
où là
42, il y a 2, 45, 42, il y a 3.
Bah écoute,
les mecs, on arrête de gaspiller du temps d'antenne pour
pas pardon.
Donc quoi, il y a quand même 42 civilisations, tu as parlé des Aztèques, on a les Berbères, on a les Bengalis, les Bohémiens, les Britanniques, je vais pas tous les citer, mais
non.
Les Maliens, les Maliens ils sont assez rigolos à jouer. Il y a les Teutons et puis les Vikings, voilà, il y en a plusieurs, et puis les Huns, comme on jouait les missions de Gengis Khan, il y a les Huns, ce qui est pas plutôt logique à jouer justement. Donc en fait, on tape dans le monde entier avec plein de civilisations différentes.
Alors je par respect pour Genghis Khan et Attila, c'est Attila le 1, le héros des 1, et Genghis Khan c'est un héros et un chef mongol.
Oui,
c'est
vient,
deux peuples
ça
différents.
Ça vient d'Asie,
mais okay, bon pardon. Pardon Max. Ne coupe pas mon micro Max s'il te plaît.
Bah, je te rappelle que je joue avec 5 paysans, donc je suis pas tranquille en histoire. Ah mince.
Okay.
Non mais voilà.
Non mais oui ça faisait partie des peuples des steppes effectivement.
Mais c'est ça, justement. Puis à quel moment, en tant que passionné d'histoire, tu te dis, putain, je vais jouer les Aztèques, ça y est. Parce que c'est quand même une civilisation qui est originale, on ne connaît pas forcément, toi. Les historiens vont connaître un petit peu l'histoire des Aztèques et tout ça, mais nous, en tant que juste fans du jeu, on ne connaît pas l'histoire. Justement, on la découvre un petit peu, je trouve, à travers tout ça.
Ah oui, non, mais c'est sûr. En plus, Enfin, c'était l'époque des dessins animés, La Cité d'Or. Ouais, je suis vieux, ouais, je sais.
Oh, j'adore.
C'était c'est l'époque de La Cité d'Or. On avait un peu une méconnaissance de ces peuples autochtones. Qui en fait étaient de très grands peuples, hein, parce qu'il y avait les Aztèques, mais il y avait aussi les Mayas, hein, qu'on oublie, hein, qui étaient dans une autre région aussi d'Amérique latine.
Et les Incas, ils ont rajouté les Incas aussi.
Et les Incas, oui, aussi, les Incas, ah oui, effectivement. Et en plus, ouais, c'était quoi? C'était les guerriers jaguars. Ouais, il y avait les. Ouais, non, c'est... Effectivement, c'est une civilisation qu'on a, enfin, moi, pour moi, qui m'a donné plus d'interrogations, qui m'a permis de découvrir, effectivement, en jouant au jeu. Parce que je pense que j'aurais pas joué au jeu, j'aurais pas.
C'est vrai que moi j'ai développé une fascination pour les civilisations précolombiennes avec la campagne de c'était quoi, Moctezuma je crois.
Ah, Moctezuma.
En voyant, parce que bon, c'est sûr que là, quand on voit les villes telles qu'elles sont faites sur le jeu, c'est symbolique, hein, c'est ouais. Pas historique, mais ça donne quand même une idée de l'ambiance globale des villes qui étaient conçues à l'époque. Et c'est vrai que quand j'ai vu.
C'est bien dommage en fait qu'on puisse pas, excuse-moi je t'ai coupé, mais qu'on puisse pas égorger un paysan, tu sais, pour faire un rite sacré.
Ça
ils l'ont coupé dans Microsoft.
Je ferais bien une digression, ils vont introduire les Aztèques dans Age of Mythology. Okay.
Je veux pas dire, mais tu peux tuer tes paysans, après tu sais pas comment ils
oui,
sont.
Oui, avec
tués,
la touche supprimée. Mais...
Ouais, voilà.
Il y en a déjà 5 si on commence de les dire.
C'est ça.
Faut pas qu'ils jouent les Aztèques, sinon on est foutus.
Tu parles de cette fascination un petit peu précolombienne que t'as pu avoir. C'est pas un petit peu ton nom de joueur qui est un peu lié à ça?
Oh là là. Bah en fait, si, oui. Parce que justement, c'est dans la campagne. Oh là là, mais c'est une séance de psy! Non, c'est dans la campagne de Moctezuma que.
Attends, je prends de quoi noter.
Un intervenant du coup.
Et donc tout ça est à cause de vos parents.
En partie, oui. Mais oui, en soi, je me suis dit, mais c'est incroyable de faire une. Parce que dans le jeu, la ville de Tenochtitlan, elle est complètement de pavé blanc, elle est magnifique, au milieu des rivières. Enfin, c'est vraiment de la pierre et de la rivière mêlée. Je me suis dit, mais comment c'est possible que des peuples qu'on considère un petit peu, pas barbares, mais quand on pense aztèque, on pense pas prouesse d'ingénierie architecturale, je pense. Et du coup, je me suis renseigné sur la ville. Effectivement, il y a plein de choses qu'ont fait les aztèques, qui sont en termes d'agriculture, en termes
d'architecture. Moi, je pense que c'est les extraterrestres qui ont posé la pyramide en haut de...
Ouais, je suis tellement ému de voir Maître Gims à l'antenne avec moi.
Ah bah oui. Mais ils avaient l'électricité à l'époque, hein, de toute façon.
Bien sûr.
Sinon, ils faisaient pas trop,
parce qu'on va se faire censurer.
Avec les 7 crânes de cristal.
C'est ça. Indiana Jones. Ah là là. Bon, ce qui est plutôt intéressant justement avec H2, même si c'était déjà un petit peu présent dans le 1, c'est le fait que tu aies quand même aussi donc, plusieurs unités de combat qui sont assez réalistes en fonction de chaque civilisation. Encore une fois, t'as l'infanterie justement où tu peux avoir plusieurs soldats, enfin c'est un peu les soldats de base que tu peux un peu perfectionner au fur et à mesure. T'as les lanciers, les halbardiers, enfin des trucs comme ça, enfin tout ce qui se faisait un petit peu à l'époque. Chaque en fait unité de combat a son utilité et son importance en fait dans une attaque ou dans une défense.
Ouais. Basiquement, c'est un pierre feuille ciseau en soi, ce qu'ils ont proposé.
Attends, je vous coupe, mais c'est le passage préféré de la musique de Age of Empires 2 là que j'entends. Ah, c'est vraiment quand je joue une partie que j'entends égoïste. Ce morceau là, c'est fabuleux. Est-ce que tu pourrais la remettre?
Non, mais je vais l'enlever du coup.
Du coup, vas-y, je t'en.
En soi, à l'époque, c'est sur le 2, ce qui est proposé, c'est vraiment un système de pierre feuille ciseau, je pense, où il y a l'infanterie, enfin les piquets en l'occurrence. C'est vrai que l'infanterie, finalement, on a du mal à trouver son rôle, l'infanterie neutre dans le 2,
oui.
Parce qu'elle est. Bonne en rien de spécial, mais faible en rien de spécial, c'est un peu une.
C'est un petit peu en entre-deux, et puis je trouve qu'elle coûte assez cher.
Coûte cher finalement, pour ce qu'elle fait, et puis elle est lente surtout. Ouais. Dans un jeu où c'est bien d'avoir une stratégie un peu positionnelle, c'est compliqué. Mais sinon, oui, ça reste un triangle archer qui bat l'infanterie, qui bat la cavalerie.
Ouais.
Et la base de la stratégie, c'est ça, et je pense que c'est un peu ce qui fait que c'est un classique finalement, c'est que le gameplay de base est très très simple, et il y a quelques spécificités sur les civilisations qui sont pas radicales, c'est là que ça va évoluer vers le 4 plus tard.
Ouais.
Qui sont pas radicales, mais qui sont suffisantes pour donner un peu le goût, pour donner une
après,
couleur à la
civilisation. Après, tu dis que l'infanterie est. Enfin, vous dites que l'infanterie est pas géniale, géniale. Enfin, voilà, mais quand même, quand tu regardes l'infanterie, justement, c'est ceux qui tiennent ta ligne de front, donc tu les envoies un peu au casse-pipe. Ils sont là avec les lanciers et les halbardiers, tu peux arrêter les chevaliers ennemis. Enfin,
alors, parce que toi, tu parles de l'infanterie en général. Là, Sébastien, il parlait uniquement en fait des hommes d'armes.
Oui.
Les hommes d'armes ont a tendance à être une unité un petit peu neutre, mais effectivement, quand l'infanterie, on s'en sert. Et la plupart de tous les joueurs, en fait, vont rester un petit peu sur ce même modèle militaire. Lancier pour défendre la cavalerie, comme tu étais en train de le dire, Max. Les archers pour détruire l'infanterie ennemie. La cavalerie pour détruire les archers ennemis. Et on va tous avoir un petit peu ce même modèle, on va dire, de production militaire. Et ce qui fait la différence sur le combat, enfin sur le champ de bataille, si je puis dire, c'est la stratégie, la maîtrise de la stratégie. À quel moment tu envoies ta cavalerie sur les flancs? Est-ce que tu envoies ta cavalerie de face? Est-ce que tu préfères engager avec les archers, reculer les archers pour après défendre avec tes lanciers? Est-ce que tu envoies des espringales qui tirent des balises de feu?
On sait que t'aimes ça, mais patience.
Alors, c'est presque un peu ce qui me manque. Moi, du coup, c'est toute cette stratégie de savoir quoi envoyer à quel moment, parce qu'en fait, moi, je prends toute la masse.
Et ben, pour ça, Max, pour pas continuer ma pub pour la salle, hein, pour ça, la salle, il y a des bootcamps. Il y a des bootcamps et les bootcamps servent justement à apprendre aux joueurs à jouer et à maîtriser la stratégie.
Alors, on peut rappeler comment s'est passé le dernier bootcamp, toi tu y étais pas, mais Seb, toi tu y étais. Hein. Le dernier bootcamp, en fait, c'était un Game of Edge réarrangé, parce qu'en fait, il n'y avait que les meilleurs joueurs, ceux qui étaient là que au Game of Edge et qui jouaient.
Oui, donc, après c'est sûr que oui.
Honnêtement, j'ai rien appris sur ce bootcamp, hein, mais en fait, les bootcamps servent à ça à la
bootcamp,
base.
Il y a un bootcamp qui était très utile pour mettre tout le monde à niveau, on était tous très performants en tant que dispensaire de nos connaissances. Et je trouve que du coup le bootcamp suivant, on était tous tellement bons qu'on pouvait pas se permettre de trouver des
En fait, un seul bootcamp a permis de rehausser tout le monde au même niveau, c'est incroyable.
À part moi. Quand t'as les bons professeurs, pas besoin de bootcamp, une seule soirée suffit.
C'est ça. Donc il faudrait faire un bootcamp par an, puis tu fais...
Mais non, oui, après, effectivement, sur les déplacements d'attaque, les stratégies, chacun a sa propre stratégie, mais on va dire le modèle de création militaire, il reste plus ou moins le même, peu importe le joueur en face, quoi. Après, effectivement, il y a quelques unités spéciales, des unités d'élite qui peuvent, des fois, faire pencher la balance en fonction de l'adversaire qu'on a en face, ouais.
Après, justement, ouais, on parlait de toutes ces unités-là et tout. Moi, il y a parmi les engins de siège, justement, en fait, il y en a qui sont assez efficaces. Il y en a que moi, j'arrive pas forcément à comprendre, c'est les béliers. Bon, bélier, c'est pas... Je vois pas l'intérêt d'avoir des béliers, en fait.
Bah après, le bélier, c'est HD Château. Généralement, on n'a pas accès encore au trébuchet, on n'a pas accès à la bombarde. Donc, le bélier peut très rapidement faire tomber un forum ou une forteresse ou d'autres bâtiments stratégiques. Le bélier, il a son avantage. Le problème, c'est qu'il sert aussi à protéger des troupes pendant un assaut, hein, puisqu'on peut mettre des troupes à l'intérieur. Par contre, le problème, c'est qu'effectivement, c'est un engin de siège qui est très lent.
Donc, il se détruit très facilement.
Pour le déploiement, après,
pour que ce soit indestructible.
Oui, après, l'idée de déployer le bélier, je pense qu'il faut construire un atelier de siège à côté de la ville de l'adversaire, dans le 2, hein, je parle du 2, pour pouvoir le déployer rapidement. Ouais, parce que c'est vrai que dans le 4, ils ont changé le moteur, mais, mais dans le 2. Dans le 2, je pense que ça peut être une arme redoutable. En plus de ça, par rapport au 4, c'est que dans le 4, on peut passer un peu à travers les béliers pour atteindre les unités adverses. Mais moi, il m'est arrivé dans certaines stratégies d'employer les béliers comme un rempart. Hein. De créer plusieurs béliers et de faire un rempart mobile.
Et d'avoir des archers
derrière. Et là, la cavalerie, s'il y a une charge de cavalerie, la cavalerie, elle est obligée d'entourer. Je suis en train de balancer ma stratégie à l'antenne, là, c'est incroyable. La cavalerie est obligée. La cavalerie a deux solutions, soit de péter les béliers, soit de contourner les béliers. S'ils pètent les béliers, bah, généralement, c'est chargé de lanciers. Les lanciers sortent, ils plantent la cavalerie, c'est terminé. Quoi.
Un gros avantage du bélier, en général, dans le 2 surtout, c'est que justement qu'on a en face un adversaire qui va pas ce qu'on appelle micro-gérer ses unités, c'est-à-dire sélectionner qui attaque quoi et qui va laisser faire ses unités en les confrontant simplement. Si on envoie les béliers en première ligne avec l'infanterie dedans, les archers vont attaquer directement le bélier qui est très très résistant aux flèches, les châteaux, les tours vont attaquer le bélier aussi. Ce qui fait que si, comme le bélier, tous les archers vont finir d'attaquer le bélier en premier, tu peux après sortir tes troupes. Et finalement, tout ce qui est arc va tirer sur le bélier.
C'est ça.
Énormément de temps.
En fait, il faut vraiment tomber sur le joueur qui gère la micro-gestion, qui va dire au château, ne tire pas le bélier, mais va tirer les unités qui sont en train de protéger ce fameux bélier. Quoi. Mmh. Et ça, si le joueur ne maîtrise pas cette micro-gestion, le bélier, il va encaisser toutes les flèches et les unités derrière ne vont pas subir de dégâts.
Après, donc ça, c'était pour tout ce qui est un peu donc unité de siège qui permettent donc d'assiéger, comme c'est un peu le nom, hein, bien sûr, ou de défendre, parce que j'avoue que moi, j'utilise bien les... Comment on appelle ça déjà? Les balistes, non? Oui, pour protéger...
Les onagres. La catapulte. L'onagre.
Un peu ça,
l'onagre.
Voilà, oui. Ah, ça, pour protéger ma cité, tu vois, tu connais mieux les noms que moi.
Mais il me fait des gestes. Alors, vous n'avez pas la configuration du local, hein, mais il y a Max qui est derrière une fenêtre en train de faire des gestes comme si j'étais en interrogatoire avec Sébastien. Donc là, on est en train de...
On appelle ça le jeu du mime. Ouais, si bah, tu connais pas mes mimes.
Heureusement que tu arrives à placer des mots qui me donnent une indication sur l'arme de siège que tu emploies. Hein.
Toi, comprendre ce que moi dire. Mais donc, ouais, il y a aussi donc, des unités qui sont assez... Enfin, que je prends plaisir à jouer, du coup, parce que c'est presque la seule game où j'ai réussi à bien me débrouiller. C'est des unités maritimes. Parce que là, en fait, on joue à la fois sur terre, mais aussi sur les mers.
Oui, parce qu'on a tendance à la plupart des parties à tourner sur terre, mais effectivement, il existe des cartes type archipel où on va avoir des îles, chacun va avoir une île avec quelques îles au milieu où on va retrouver des ressources. Où là, du coup, il y a un combat qui va se faire plutôt terrestre et maritime. Où là aussi, on va retrouver des unités un petit peu d'élite en fonction des civilisations. Il y a vraiment tout type de cartes. Il y a des cartes qui vont être je parlais un petit peu d'historicité, oui et non, parce que il y a des cartes qui vont ressembler à la carte de la France, à la carte de l'Angleterre, machin, etc. Mais après il va y avoir des cartes un peu comme la ruée vers l'or, la course à la relique, où c'est des jeux dans le jeu, quoi.
C'est des jeux de plateau un petit peu.
Ouais, c'est ça. C'est...
Le naval, d'ailleurs, ça a un intérêt militaire, c'est aussi un intérêt économique, parce que finalement, il y a aussi les navires de pêche.
Ouais, tu pêches les poissons.
Et voilà, quand on finalement, un des grands gimmicks de quand on commence sur le jeu, quelque chose que les gens ont du mal à faire, c'est de créer en continu des paysans. Mmh. Il paraît qu'il y en a qui, à 40 minutes, on en a toujours 5. Ça doit être un mythe. Le fait est que plus on a de travailleurs en continu qui sortent du forum, plus l'économie se développe vite, et le fait de faire un port, ça permet de produire des navires de pêche. Et on produit des navires de pêche qui vont rapporter économiquement.
Mais c'est
en parallèle.
Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé sur la dernière partie maritime qu'on a pu faire tous ensemble. J'ai pris d'ailleurs ce plaisir-là. Je ressentais enfin le plaisir que vous avez d'avoir au moins 200 pélons qui sont en attente de création. Justement, en fait, que ce soit des soldats, que ce soit des bateaux, tout ce comme ça. J'avais une file d'attente parce que, en fait, on est limité en termes de création de population. Ça peut être du 100, du 200, du 300. On limite, en fait, autant qu'on veut la population. Et en fait, à cette limite-là, en fait, on ne peut plus créer d'unités. Et ce qui fait que dès qu'on a des unités qui meurent ou qui sont détruites, etc., ça recrée d'autres trucs. Et j'avais cette même sensation que vous avez de plaisir d'avoir au moins 80 ou 90 unités de combat qui attendaient d'être créées, en fait. Et dès que j'en avais une qui était détruite, j'ai dit « Youpi, j'en ai 5 autres qui arrivent ». J'avais ce truc-là, c'est vachement intéressant. Mais c'était sur le côté maritime.
Ça me fait penser à un truc, là, quand il vient de dire ça, parce qu'on est encore sur Age of Empires 2, là, il est parti sur Age of Empires 4. Oui, on a même sauté le 3, quoi. Oui, tu vois, on suit même plus la ligne rouge, là. Ça me fait penser, sur Age of Empires 2, tu te souviens, l'émission, elle se jouait à 75 de pop.
Oui, ça, c'est...
C'était un enfer. C'était un enfer sur Terre. Alors moi qui joue à Kozax en parallèle, Kozax où tu montes à 5000 voire plus et que tu passes à Age of Empires à 75 de pop, bah, quand ils ont commencé à sortir les mods, j'étais bien content d'avoir un petit mode...
Ça c'est un peu biaisé parce que Kozax c'est pas les mêmes troupes, hein. T'as 5000 soldats qui arrivent, t'as un boulet qui tombe d'un galion à canon qui est à 300 km et tu perds 400 unités, c'est quand même pas la même échelle.
Ça me rappelle un petit peu justement les 300 contre la Perse.
Oui. Mais oui, après, effectivement, quand tu arrives au max de pop, bah, tu peux plus en créer. Tu peux remplir ton arbre de création d'unités. Alors, c'est bien et pas bien, parce qu'il suffit que, entre guillemets, tu attends une unité précise et que tu as rempli ton arbre.
C'est agaçant, ça.
Ah, c'est un enfer. Que tu as rempli ton arbre et que tu veux une priorité sur un canon parce que tu as besoin d'un canon à l'instant T et que tu supprimes des villageois et que c'est 3 lanciers qui sortent à la place du canon. Et du coup, t'es obligé de tuer les lanciers qui viennent de sortir pour que le canon il sorte. Bah, c'est un enfer. C'est un enfer.
Je me souviens sur une des premières Game of Edge. Bah oui, je crois que c'est la première que j'avais gagnée. Je m'en souviens peut-être à toi, mais moi c'est un souvenir bien agréable. Il y avait du coup, j'avais mon armée qui était chez Thibaut, il me semble, et
le roi
j'ai
Thibaut,
rasé Thibaut. Il y a je sais plus qui est venu dans ma base, qui avait vraiment toute son armée qui arrivait à mes portes, quoi. Et en fait, j'ai pas eu le temps comme je pouvais pas produire d'armée en plus et que j'ai pas eu le temps de rapatrier mon armée, j'ai dû sacrifier toute mon armée qui était encore dans la base de Thibaut pour pouvoir faire renaître chez moi des... C'est vrai que c'est un peu...
Ça m'arrive souvent aussi, c'est un enfer.
C'est frustrant.
C'est un problème de riche, t'as tout de
passé. Ouais, mais bien sûr.
on en revient à ça, en fait.
C'est un problème de riche.
Tu es riche. Ouais. Bon, alors, on va effectivement... Voilà. Ça, c'est un petit peu donc, toutes ces unités, toute cette stratégie-là, voilà, et... Effectivement, le plus important, ça reste les paysans. Ça, moi, je suis désolé, j'en suis convaincu. Même avec 5 paysans,
oui, c'est sûr,
voilà.
C'est sûr.
Et ouais.
Après, je suis pas spécialiste de la chose, mais quand il y a une guerre, quand on part en guerre contre quelqu'un, si le ravitaillement suit pas, si l'économie suit pas, la guerre on la poursuit pas, quoi.
Voilà. Donc les paysans sont les meilleurs. Suivez mon conseil, créez 300 paysans, ça va super bien.
300, il en a créé 5 la dernière fois, il a pas compris.
C'est ça. Bon, alors,
prends pas très vite.
Je propose que vous continuez de vous moquer de moi, mais un petit peu en coulisses, on va passer justement à la deuxième pause musicale.
Ne viens pas nous taper, il prend une batte de baseball, il est fou.
C'est vrai qu'il a l'air menaçant.
Mais ouais, donc on va pouvoir se faire une petite pause musicale justement, un petit peu, donc Edge 2. Voilà, et je vais même remettre du coup un peu ce qu'on a découlé le film, parce que là, en fait, on a passé les 20 minutes de musique que j'avais prévues sur Edge 2 et on s'est arrêté. Donc là, je vais la repasser du début, mais on va passer quelques petites minutes histoire de se faire une petite pause. Et on vous retrouve juste après pour parler un petit peu donc de Edge of Empire 3 que vous adorez bien sûr.
Moi, j'aime bien.
On est de retour sur Radio B pour donc continuer de parler un petit peu de la licence Edge of Empire. Donc là on a fait le 1, le 2, on a digressé sur le 3, le 4, le 1, le 2, le 12, enfin on a digressé de partout. Et on va reprendre un petit peu, donc ouais, vraiment pour parler un petit peu plus donc, de Edge 3, qui est donc un jeu qui peut être plaisant et que plusieurs personnes quand même décrivent un petit 3. Peu.
Alors moi j'ai détesté à la sortie.
Oh là là.
Oh là là. Oh là là.
Aigri.
Oh là là.
Fermé à la nouveauté.
Oh là là.
Bah, tu sais quoi, même si tu le détestes, je te mets la musique en fond, comme ça tu peux quand même de nouveau l'apprécier.
La musique est excellente en plus.
Oui. On peut l'enlever. Mais alors, j'ai quand même acheté le jeu. J'ai quand même fait toutes les missions. Les campagnes.
Elles sont très très bonnes aussi.
Les campagnes, elles sont exceptionnelles. La recherche de la fontaine de Jouvence, c'est exceptionnel. Mais la jouabilité, je pouvais pas. Je pouvais pas. En plus, moi qui étais aussi joueur en parallèle Warcraft 3, je me dis non mais en fait comme je disais il y a quelques minutes, en fait je pouvais pas retourner en fait sur un Warcraft 3 version Edge, c'était pas possible quoi. J'ai l'impression de jouer à un jeu modé quoi.
Ils ont voulu faire trop de choses en fait, ils ont voulu vraiment réaffirmer la licence. Je pense qu'il y a eu un moment donné un mec en cravate qui est rentré dans la salle qui a dit vous avez vu Edge, vous avez vu comme ça a cartonné, on va tout donner sur ce prochain volet. Mmh. Ils ont rajouté plein de choses, plein de nouvelles fonctions.
Ouais, il y avait, avec le système de terraformation, tu construisais un bâtiment, ça modifiait le terrain.
Quand tu passes un âge, tu choisis entre plusieurs dirigeants qui vont te permettre d'avoir des, un peu comme Age of Mythology,
des bonus.
Je pense que le pire, c'est qu'il y a un système de capital. Plus tu joues une civilisation, plus tu débloques des cartes qui sont affiliées à cette capitale.
C'est ça.
Et tu vas faire ton jeu de
cartes. Soit tu gères plus la partie économie, soit la partie militaire. Ouais. Tu demandes des renforts d'armée, des renforts de châteaux, etc.
Mais en fait, ce qu'ils essaient de matérialiser par cette mécanique-là, c'est que tu joues des colons finalement qui arrivent en Amérique. Et donc, ça matérialisait les bonus qui arrivent de la métropole européenne en Amérique. Donc, en soi, le principe est assez chouette, quoi. C'est assez novateur, mais dans les faits, c'était trop compliqué.
Non, c'est clair.
Trop la même civilisation pour pouvoir avoir des bonus. Ça faisait un peu jeu Facebook sur lesquels il faut passer ta vie sur un seul.
Par contre, le côté positif, je trouve que c'est. Il limitait le nombre de châteaux.
Oui.
Tu pouvais pas construire qu'un château sur la carte. Ouais, tu vois, t'avais un fort. Si tu demandais une carte d'avoir un deuxième fort, tu pouvais avoir un max deux forts.
Et ça, c'était quelque chose de réaliste ou c'était à l'époque en fait.
C'est comme Sébastien disait en fait. Faut s'imaginer qu'à l'époque, vu que ça se passe dans les Amériques ou même en Inde ou parce qu'on traite aussi la partie.
Aussi.
Alors déjà la partie de l'époque comme Edge et sa continuité. Là, on est sur une partie de l'époque qui touche la Renaissance avec la découverte. Ouais, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, même si elle a été découverte par les Vikings, mais ça c'est autre chose.
Tu sais quoi, je suis même pas d'accord avec toi parce que est-ce qu'elle a vraiment été découverte? C'est pas une terre qui était découverte, il y avait déjà des habitants dessus. Hein. Donc elle était déjà découverte.
Là 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 ouais, là. Je sors. Ah, c'est bon. J'en ai trop entendu.
Trop, là.
Ah non, mais c'est vrai.
Mais ils sont venus comment ces types-là? Ils sont pas venus par le Saint-Esprit. Il y a un moment.
Les enfants se reconcentrent.
Mais voyons, papa.
Une trame.
Ouais, la Terre, elle est plate, en fait. Tu comprends?
Ah, c'est ça. Et c'est reptilien.
C'est Astérix et Obélix, là, chez les Indiens, en fait. C'est eux qui ont découvert les Amériques.
Ouais.
Non mais pour rejoindre ce que Sébastien disait, on est sur un peuple des civilisations de l'Occident qui découvrent des nations et du coup ils ont voulu respecter un petit peu cette trame historique en disant on va limiter ces superpuissances par des bâtiments un petit peu primitifs, hein, puisque ça reste principalement du bois au début, et après ça se transforme un peu en pierre, en fonction des âges. Mais si on a besoin de technologies supérieures, de renforts de troupes, etc., il fallait qu'on les demande avec des cartes à notre capitale. Et ça, c'était une stratégie qu'il fallait avoir en amont, en fonction des parties, parce que soit on jouait la carte de l'économie, soit on jouait la carte de la stratégie militaire, et il fallait qu'on s'adapte en fait à chaque fois à la personne qu'on avait en face, quoi.
C'est ça. Mais après,
moi, je jouais les Hollandais, moi. Ah. Ils étaient riches avec les banques.
Les auditeurs ont bien noté. Là, ils jouaient les Hollandais.
Ouais. Et toi, en tant que riche, tu jouais à quelle civilisation?
Toi, je sais pas pourquoi.
Ils volent les Hollandais.
Toi, tu jouais les Hollandais aussi?
Non, moi, je jouais les Suédois. Non, je jouais les Suédois parce qu'en fait, il se trouve que dans le...
Oui, mais les Suédois, c'est dans le Remaster. Ils n'y étaient pas dans le...
Ah non, mais j'ai très peu joué à la sortie.
Ah, ok.
Quand tu dis Remaster, tu dis quoi? Les extensions ou
non, non, le Remaster, en fait, c'est que Age of Empires 3, il a été remasterisé en définitive édition comme Age of Empires 2 et ils ont rajouté des civilisations en plus justement pour essayer de redonner un petit peu de blason à ce jeu
parce que dans les extensions il y avait des civilisations en plus, toi, il y a l'extension The War Chiefs et puis The Asian Dynasties qui du coup ramenait d'autres Disney, peut-être qui séparaient un peu plus les
dynasties.
Ouais, les dynasties justement en plusieurs dynasties.
En plus là on parle même plus de roi, hein, c'est vrai, enfin on vient d'utiliser le terme, on parle de dynastie, quoi. C'est vraiment c'est on change vraiment de d'univers, quoi, là. C'est
et d'époque
ouais. Ouais, là on a beaucoup plus d'artillerie, de canons, d'armes à feu, d'hommes à mousquet, enfin c'est une autre stratégie.
Et
là,
c'est ça qui est génial, je trouve, avec la licence en elle-même, c'est qu'à chaque fois, à chaque jeu, en fait, on passe d'une époque à une autre, et en fait tu peux, c'est un livre d'histoire en fait, à gameplay ouvert.
Ouais. Après, là, par contre, au niveau du mode campagne, là, on est moins dans l'historicité, là. Mm-hmm. On est un petit peu sur la recherche de la fontaine de Jouvence. Je sais même pas si c'est tiré d'un livre, ça. Je sais même pas s'il y a eu un livre dessus, mais on voit qu'il y a l'île de Malte avec les chevaliers hospitaliers qui part à la recherche de cette fameuse île de Jouvence. Mm-hmm. Les Berbères, en fait, les Ottomans, pardon, c'est pas les Berbères, c'est les Ottomans, qui partent également aussi à la recherche Donc on se retrouve avec des Ottomans en Amérique. Je sais pas si historiquement ça existait. Ouais, je crois pas. Il me
c'est
semble.
C'est
aussi
historique que dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, s'il te plaît.
Ouais, ça y est.
Ok. Il a découvert Christophe Colomb. Il a découvert les Indes en fait. Pour lui, il est arrivé en Inde.
Ouais, au fond. Je crois que je vais être banni de la
c'est
salle.
C'est pour ça qu'ils les appelaient les Indiens.
Le Gim Stéphane Bern, disons qu'il y a du beau monde ici.
C'est ça, ah là là. Donc ouais, voilà, en fait, quelque chose moi qui m'a marqué un petit peu, donc quand je me suis renseigné sur Edge 3, parce que je n'ai pas encore joué au final, quelque chose qui devait être un peu une révolution à l'époque, c'est surtout au niveau du, en termes de jeu en lui-même, c'est que maintenant on a les unités en 3D aussi, apparemment, si j'ai bien vu ça. Ouais. En tout cas, on a donc ouais, les batailles et puis tout ça en fait en 3D un petit peu plus avec des unités.
Oui, le pack texture il a été amélioré, puis il y a un système de zoom avec la souris.
C'est ça.
Je pense que ça a
rajoute
plus
pas
chose.
Un petit cachet quand même.
Ben, je pense que ça s'est un peu effacé justement, c'est un peu tombé dans le Warcraft.
Et oui, ouais, c'est perdait, ce que je disais en fait.
Je pense qu'on avait plus de, on avait plus conscience de ce qui se passait à l'écran avec le
système de zoom.
Ouais, tu vois plus les 3, quand tu vois les canons mouillant. Qui tirent, tu les vois vraiment tirer et tout. Oui. T'as un peu ce côté où t'es introduit un peu dans le jeu, vraiment un peu plus peut-être.
Ouais, après, bah, y a le pack son aussi qui a été un petit peu changé, le tir des canons, etc. Il est un peu plus, entre guillemets, époustouflant pour l'époque. Mais...
Ça fait plus pompant, ça fait boum boum.
Ouais, voilà, c'est ça. On n'entend plus trop les arcs tirer des flèches, on entend plus des mousquets tirer. Mais ouais, après, moi, on va rester sur tes trois lignes.
Ouais. Bah en fait,
j'ai pas trop grand chose à dire sur ce jeu-là. Oh, non, mais après, c'est la vérité. Je pense que, en termes de. Je sais pas combien de joueurs, si on peut avoir l'information, mais combien de joueurs, si un auditeur peut commenter sur ton post Facebook, combien de joueurs a joué à Age of Empires 3, je pense qu'on est encore moins que le nombre de paysans que Max.
Moi, je pense que j'ai le nombre.
À chaque partie, mais.
Moi, je pense que j'ai le nombre, c'est les deux qui sont en face de moi, quoi.
Quoi? Ouais. La dernière fois, il m'a forcé à rejouer.
Ouais, c'est ça. Non, on a fait une bonne soirée, tout le monde était sur le 3.
Bah, tu sais quoi, je suis d'accord avec toi de passer un petit peu donc, à la suite, mais pour ça, c'est un petit peu comme tout à l'heure, ouais, comme quoi j'ai vraiment bien préparé cette émission au poil. J'ai une petite transition magnifique que je m'en vais te déclamer, mon cher roi.
Waouh.
Eh bah oui, attends.
Je me mets en position pour recevoir les honneurs.
C'est ça. Mesdames et messieurs, nos explorateurs viennent de jeter l'ancre et il est temps, pour quelques instants, de laisser parler les vents du large et les musiques du Nouveau Monde. Nous vous proposons une nouvelle pause musicale directement sortie de Age of Empires 3. Entre airs coloniaux, percussions tribales et échos des grandes traversées, fermez les yeux, imaginez les voiles gonflées par le vent et les horizons encore inexplorés.
Et les poètes ?
Je vois pas le rapport avec Magloire, là. Pour l'instant, j'attends toujours les louanges qui me sont dues, mais
non,
ça
mais
traîne un peu.
Pas, t'en auras pas, t'inquiète.
Ah, super.
C'était très beau, Max.
Super radio, mais...
Restez donc à l'écoute, chers auditeurs, car après cette escale sonore, la conquête reprend.
avec son triangle. Nous, c'est mon
voilà,
moment.
Retour. Qu'est-ce que tu disais?
On parlait de la musique, de la beauté de la musique du trou.
Ouais, bah, à défaut d'être un jeu magnifique, la musique est au moins...
Mais le jeu est très bien, ça suffit maintenant.
Ah, tu n'es pas content?
Bah, c'est pas que je suis pas content, j'ai le droit de dire que le jeu est bien. Sans être aigri pour autant, je suis déjà aigri tout le reste du temps.
Mais c'est comme ça qu'on te connaît et qu'on t'apprécie.
Super, ça fait plaisir.
Tu es celui qu'on appelle le roi aigri.
Ça roule, ouais, super. Bon allez, HF4. Hein.
C'est ça. Donc c'est le dernier opus de la saga qui est sorti combien d'années après le 3 déjà?
Fou, il n'y a pas longtemps. Hein. C'est le moment où on prend un coup de vieux, ça.
C'est vrai qu'on est resté en attente pendant très longtemps. En plus, il a été annoncé il y a un petit moment, je dirais pas 2000... un petit 2000...
2021, 2023.
Mm-hmm. Ah, tu vois, j'allais dire 2016, tu vois.
Ah ouais, ouais peut-être. Ouais, j'ai aucune notion du temps.
Alors, il faut savoir qu'en fait, entre le 3 et le 4, il y a eu 15 ans qui se sont passés. Donc, c'est quand même pas mal d'années. 2016. C'est ça, ouais. C'est quand même pas mal d'années au final. Hein. C'est que les joueurs, je pense, étaient un petit peu en attente, même si le 3 a marqué un peu son époque.
Bof.
Pas pour tous les joueurs, mais je croyais que tu l'aimais bien.
Tu avais dit quoi comme date?
J'avais dit 2020-2021.
Eh bah 2021.
Allez
2021.
Mais voilà. T'es pas le roi pour rien. Hein.
Mais 2021, oui, parce que effectivement, entre Age of Empires 3 et la sortie de Age of Empires 4, ils ont sorti Age of Empires 2 HD Edition. Ça, avec un pack texture, l'ouverture des modes, et du coup, je pense qu'ils se sont dit, ouais, on va peut-être les faire attendre un petit peu.
Le directeur marketing s'est fait licencier l'année
d'après. Et je me souviens très bien, en fait, en plus de la bande annonce de la sortie du jeu, la première chose qu'ils nous avaient montré, c'est les archers anglais qui montaient sur le mur, et là, on s'est dit, oh, on peut monter sur les murs, waouh, c'est exceptionnel. C'est bon, on va dire que c'est quand même une prouesse.
Personne le fait, mais
personne le fait. Comme personne n'utilise la tour de siège pour débarquer sur le mur, parce que en fait, tu prends la tour de siège, tu débarques sur le mur. Mais après, tu fais quoi?
Mais c'est le principe d'une tour de siège à la base, non?
Est-ce que tu peux descendre? Est-ce que tu prends le contrôle de la porte? Honnêtement, j'ai jamais fait à tester.
C'est sûr. Mais donc du coup, par rapport aux autres Edge, donc Edge 4 revient à peu à l'origine de ce qu'était Edge, en fait, on repart un peu dans le Moyen-Âge. Quand même.
Effectivement, ouais. Je pense que de toute façon, Edge of Empire 2, c'était l'opus qui a fait le plus de ventes. Ouais. Et ils se sont dit, bon, bah, c'est une période de l'histoire que. Je pense qu'en fait, ils auraient fait un Edge of Empire 4 version Antiquité, il aurait cartonné, quoi. Tu vois, je viens de réfléchir à l'instant, je pense qu'il aurait cartonné.
Antiquité, finalement, c'est le homme.
Oui, mais avec les moteurs graphiques de combat du 4, je pense qu'il aurait été exceptionnel.
À voir,
mais je pense que voilà, bon, ils ont regardé un petit peu leur portefeuille et leur argent, Microsoft, et ils se sont dit, bah, Age of Empires 2, il a cartonné, on va rester sur cette trame-là, et on va ressortir un quatrième opus sur du médiéval. Hein, enfin,
c'est le
médiéval.
Retour vers le futur de Age of Empire.
Ouais,
c'est l'Antiquité, ils l'ont inséré dans le 2 finalement, parce qu'ils ont fait du contenu additionnel sur la Grèce.
Oui, dans le HD Definitive Edition, ouais.
Oui. Ouais. Il y a des actions, c'est Microsoft.
Attends, je vais regarder où elles en sont.
Donc du coup, ce qui est vachement bien donc, avec le 4, c'est que concrètement, moi, c'est ce qui me plaît énormément, c'est que c'est un cours, pour moi, alors à moins que je me trompe complètement en histoire, mais c'est un cours d'histoire en jeu, quoi, concrètement. T'as des documentaires interactifs, t'es pris dans des séquences... Voilà,
En fait, je pense que... Excuse-moi Max, je t'ai coupé, mais effectivement, je pense que là, ils se sont dit, on va vous montrer depuis tant d'années, on fait des jeux historiques, et on va vous le prouver en faisant rentrer en action dans le mode campagne des historiens, des archéologues, avec des vues découpées, détaillées, et je trouve que la mécanique, elle est très bien faite, même si des fois on a envie de jouer en fait, très clairement nous ce qu'on veut c'est jouer, on veut jouer les émissions, mais des fois il y a des petites phases historiques de vidéos qui sont mises en place. Je crois que j'ai le souvenir qui parle de, enfin en plus les campagnes je les ai faites, mais à un moment il parle pas de Guillaume le Conquérant avec la toile de Bayeux qui est la fameuse toile qui retrace l'histoire de Guillaume le Conquérant. Enfin, après on a plusieurs missions.
De Soissons aussi.
Ouais, exactement. Ouais. Donc non, c'est le mode campagne là, il montre effectivement que Microsoft a assez entouré d'historiens et d'archéologues sans doute pour créer son jeu vidéo et à vraiment apporter une touche d'historicité quoi.
C'est ça. Mais c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que du coup, en fait, ça donne, même si toi tu dis que tu as des fois bien envie de jouer, ça donne quand même bien envie de jouer justement. T'as ce côté immersif où tu es vraiment pris dans un documentaire, tu joues dans le documentaire en fait un peu.
Il y a le côté interactif, il y a le côté interactif en fait qui est présent. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses.
Moi, je trouvais les deux meilleurs dans la mise en scène de l'histoire justement. Effectivement, le 4 dans ses introductions de mission propose vraiment quelque chose de très immersif avec des vidéos, avec des plans sur les villes réelles, comment elles étaient avant, comment elles sont maintenant. Donc, c'est vachement immersif. Effectivement, c'est beaucoup plus dynamique. Maintenant, je trouve que les missions des campagnes du 4, c'est souvent on a une ville, on assiège une ville, ou alors on a une ville, on défend une ville. Et finalement, il y a peu de mise en relief par rapport au dans le 2, on avait Prague, on avait les rivières autour, les villages autour. Là, souvent, c'est un joueur contre un autre, et ça, c'est assez limité, je trouve, comparé à... Franchement,
les cartes, j'ai l'impression qu'elles sont plus courtes.
Elles sont très petites, et finalement, c'est presque un déplacement qu'on fait. On va d'une ville à une autre, on tue des
on zones, doit résister à des phases d'assaut.
Ouais, c'est ça. Alors que dans le 2, il y avait vraiment ces missions avec des alliances, tous les peuples autour, avec différentes factions auxquelles on pouvait verser des tribus, s'allier... Il y avait des événements narratifs qui intervenaient comme ça, il y avait des choses.
Ouais, je me souviens, tu ramenais un éclaireur dans un village, tu pouvais repartir avec trois onagres.
Et ouais, je trouve que c'est plus ce côté
après,
mission.
Ce côté historique un peu qu'on peut retrouver, moi, dans un peu dans les missions justement de Edge 4, un petit peu, on le retrouve toujours dans le mode de jeu aussi, tu vois. Là, j'ai employé un terme technique, mais bon, enfin, je sais que j'ai des mecs calés en face de moi. Si je vous parle d'asymétrie des civilisations, vous me répondez.
Ça va. Bah clairement le 4,
vous avez 5 heures.
C'est un peu son point fort hein. Je pense que l'asymétrie justement c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de civilisations qui sont proposées. En fait je pense qu'ils ont trouvé juste le milieu entre le 3 sur lequel ils se sont dit il faut qu'on innove, que ce soit différent du 2. On va faire des ambassades avec lesquelles tu vas pouvoir traiter pour prendre des hommes d'autres factions. On va faire plein de bâtiments avec il y avait le saloon, il y avait une église, une chapelle, il y avait un choral, des moulins, des domaines, il y avait énormément de diversification. Et au final, on s'y perdait complètement. Là, sur le 4, on revient à quelque chose de plus simple, mais ils ont fait le focus, dans le...
On va dire qu'on a toujours les bâtiments génériques, mais après, on a quand même les passages à l'âge qui sont faits par des bâtiments correspondant plus à la civilisation, avec une architecture qui correspond plus aussi à la civilisation. Après, effectivement, pour le peu de civilisation engagée aujourd'hui sur Age of Empires 4, malgré une sortie en 2021, donc ça veut dire il y a déjà quand même maintenant 5 ans. Là, moi, je pense que... Après, bon, c'est un autre débat, hein, mais je pense que là, il y a un système de... Pas de pay-to-win qui est mis en place, mais quasiment. Il faut faire de l'argent aujourd'hui pour qu'un jeu tienne. Et pour faire de l'argent, ben, on va sortir des civilisations... petit à petit, avec des quelques avantages stratégiques qui peuvent faire pencher la balance de civilisation de base. Et aujourd'hui, en fait, si on n'a pas le DLC, on se retrouve très limité. Pour répondre à ta question, oui.
Ouais, mais c'est du positif, comme du un peu plus contraignant des fois.
Oui, après.
Comme dans n'importe quel jeu, au final.
Comme dans n'importe quel jeu. Après, ça dépend du joueur qu'on a en face. Hein. Si on a un très bon joueur qui maîtrise bien le jeu, pour citer Sébastien ou même pour citer.
Non, mais le site après, il va y croire.
Pour citer d'autres. Hein, j'ai découvert récemment une civilisation que je pensais être. Littéralement claqué quand elle est sortie parce que je l'ai survolée et aujourd'hui c'est une civilisation que je maîtrise et je suis redoutable avec.
C'est la civilisation des paysans.
Voilà.
Il est redoutable avec
la dynastie macédonienne.
Ah bon ?
Oui, c'est vrai.
Ah bah attends, chez moi c'est opération tempête de feu, c'est je crame le terrain, c'est je suis là pour brûler les terres.
Ouais. Vous retenez ça, les écologistes.
Mais tu vois, je prends ton exemple. Tu as une très bonne maîtrise de la civilisation byzantine. Tu peux être très redoutable avec cette civilisation-là. Comme tu peux être très redoutable si tu prenais les Français, tu vois, parce que tu maîtrises le jeu.
Oh non, les Français, j'aime pas.
Non, mais bah, parce que t'aimes pas, mais je veux dire, tu peux être redoutable avec. Oui. Tu prends un débutant dans le jeu qui joue les Français parce que c'est une civilisation axée débutant. Il passe sur les Byzantins. Moi-même, hier, j'en ai fait les frais. Hein. Moi, cette civilisation-là.
J'ai bien vu, ça m'a chagriné.
On s'est fait soulever. Là. On va pas citer Anthony, mais Anthony qui veut nous refiler de l'or alors que.
Bien sûr, lui.
Développe-toi avant, Anthony. Si tu entends ce message à la radio, développe-toi.
Mais pas que toi. Développez-vous tous au maximum. C'est mieux.
Mais ouais.
Bon, après, ce qu'ils ont voulu faire, je pense que c'est juste qu'ils ont. Ils ont créé des civilisations. En fait, le jeu était destiné à être plus complexe parce que chaque civilisation est vraiment très spécifique avec des mécaniques qui, comparé aux deux où c'était quelques bonus spécifiques à part civilisation, là c'est vraiment structurel. Les Mongols peuvent déplacer leurs bâtiments complètement. Les Templiers peuvent s'allier avec d'autres nations. Enfin,
ils sont là, plus axés aussi sur le pèlerinage.
Oui.
Non, mais c'est clair.
C'était des nations d'introduction.
C'est bien développé justement. Ouais.
Tout simplement. Je pense que.
Ah oui, et puis ils ont sorti des faits historiques de chaque civilisation. Hein. On va parler du sultanat de Delhi qui va utiliser énormément les éléphants de guerre, les Abbassides, qui ont utilisé la grande tour de siège qui a assiégé à Jérusalem sous Saladin. Ça c'est des faits historiques, quoi. Et aujourd'hui, ils ont utilisé ces faits historiques là pour les intégrer dans un jeu vidéo et donner en fait un avantage à une civilisation.
C'est ça. Alors j'aimerais revenir parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Hein,
mais avance, l'émission. C'est toi le maître de l'émission.
Pas que de l'émission, s'il te plaît. Donc ouais, on va avancer un petit peu. Donc Seb, tu parlais tout à l'heure des musiques de H3 que tu aimes bien, qui, faut reconnaître, sont pas mauvaises. Les musiques dans H4, franchement, elles pètent. Elles sont parfaites, ils ont fait
un gros effort sur le design du son général. Quand on passe déjà sur les unités en général, dès qu'il y a une charge de cavalerie, on entend les mécanismes des trébuchets, des catapultes.
Et puis on entend même les soldats parler.
C'est un truc de dingue, la langue
qui évolue au fur et à mesure que l'usage avance.
Ouais.
Bah, typiquement les Français, parce que c'est sûr que pour les Maliens c'est plus compliqué de s'en rendre compte. Mais quand on joue les Français à l'âge 1, on va avoir un vocable un peu antique. Alors que quand on est à l'âge 4,
c'est très vieux français.
Je prends cœur de ce manoir.
Ouais. c'est très vieux français. Comme tu disais, ils ont vachement misé sur le son parce que chaque civilisation a son identité sonore. Mm-hmm. Sur la musique. Enfin, je prends le Saint-Empire romain germanique, ils ont une musique très égliastique. Ils ont.
Il y a du terme, là.
Ouais. je prends la musique de la dynastie macédonienne. Je l'adore. Elle est vraiment magnifique.
Que la byzantine, non ? La byzantine, elle est super.
Une légère différence, mais vraiment, elle est exceptionnelle.
Désolé, je préfère la musique des Russes. Oh mince. Enfin, pas celle de maintenant.
Tu sais que je sais même pas c'est quoi la musique des Russes.
Non.
C'est un peuple que je joue pas. Il est tellement autochtone.
Ben, c'est quoi ce soir, si t'es motivé, on s'en fera une. Mais je te mets.
Embarquer des biches à dos de d'éclaireurs là pour manger.
Non, à dos de 5 éclaireurs, c'est parce que c'est comme mes paysans, j'en ai 5. Ah là là. Bah, ça fait quand même. Quelques petites choses qu'on a pu dire sur H4, voilà, donc c'est quand même l'opus le plus récent, c'est celui qui développe plus les choses.
Puis c'est celui qu'on joue le plus aussi à la salle.
C'est ça. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de petites choses. On a un peu couvert Edge 1, 2, un peu moins le 3 et un peu le 4 quand même. Hein, voilà, ça fait pas mal de choses. Donc maintenant, il vous reste qu'une chose, c'est à y jouer aussi, hein, les auditeurs. Hein, il faut absolument y jouer si vous voulez découvrir un jeu extrêmement complet et intéressant. J'aimerais revenir sur quelques petites choses qui, donc moi, je les ai pas connues parce que. Alors déjà, je ne sais pas forcément les faire et je ne sais même pas si c'est possible sur le 4, bien sûr. Mais c'est un petit peu quelque chose qui vous parlera parce que, hein, en tant que tricheur avéré, vous le savez.
Ah non, il ne va pas parler de la ligne de code.
Les cheat codes.
Non.
On s'en fout de ça.
On s'en fout, c'est pas intéressant.
Oh, Big Daddy, Robin Hood, Lumberjack.
Comment il va faire pour sortir Egliastic en parlant des codes?
Je sais pas.
Wololo.
Lui, l'occasion de sortir, c'est. Ouais.
Moi, celui que j'ai testé, c'est le Wololo.
Mais tu sais, j'ai une checklist où tous les mots compliqués, je dois les poser et là, je l'ai posé.
Pour l'instant, t'es bien parti.
Ouais, je suis bien parti.
Il a peur de nous perdre avec asymétrie, mais.
Du coup.
Allez, épiscopal.
Tu nous diras quand tu fais Scrabble, comme ça c'est plus simple.
Pour les cheat codes, oui, bah, je les ai connus sur. Enfin, moi, quand j'étais gamin, sur Age of Empires 2, très peu sur le 1, parce que de toute façon, pour avoir les cheat codes, il fallait avoir Internet. Et je n'avais pas Internet.
C'est vrai qu'à l'âge de Pierre, c'était compliqué.
Donc, je les ai connus plus sur le 2. Et oui, des fois, bah, tu t'éclates à faire une partie où tu balances un. Tu balances. Un max de, ressources, pardon. Et puis tu tapes ton petit délire dessus pour que la partie elle dure 5 minutes, mais en soi.
Je sais pas, moi celui qui m'a le plus perturbé, celui qui est le plus perturbant pour moi, c'est le Big Daddy qui apparemment faisait apparaître une voiture surpuissante avec un lance-roquette, enfin juste un peu anachronique quoi.
Non, ça c'était How Do You Turn This On.
Ouais.
Ah, c'était celui-là.
Et puis il y avait I Love Monkey Head. Oui. C'était un petit chimpanzé, il traçait une vitesse et j'adorais parce que j'allais choper l'aggro chez les autres joueurs et
il y a 2 minutes ça l'exaspérait, maintenant il en parle avec des étoiles dans les yeux.
Évidemment, mais c'est pour ça que j'en parle aussi,
non, parce que je ne m'en souvenir en fait quand j'ai...
C'est ça.
Je ne m'en souvenir, bon, ouais, c'est... Après, bon, on s'en fout des codes, allez, on passe.
Le seul que je peux dire moi qui m'a marqué c'est sur H4, c'est le Wololo, parce que le Wololo est terrible. Ouais. Ça permet de convertir les troupes ennemies.
Ouais, mais là on n'est pas sur un cheat code là.
C'est pas
un cheat code.
T'appelles
ça de la triche.
La triche autorisée.
Ouais, c'est juste qu'il faut retirer soit il faut retirer tes troupes au bon moment, ou soit il faut dégommer le moine.
C'est un peu un message là, de prévention, mais il faut se retirer à temps.
Oh mon dieu, c'est pas possible.
C'est bientôt fini, sans propos obscènes.
Est-ce que, cher auditeur, vous savez ce qu'on subit là en fait depuis
une séquestration.
C'est ce que je veux dire de mon côté. Hein.
Il a fermé la porte du studio à clé, je l'entends.
Clic-clac.
Je lui ai donné un mot en morse derrière.
C'est ça. Maintenant, on va parler qu'en morse. Donc non, on va parler un petit peu. Donc ouais, maintenant qu'on a fait, on a fait le tour de tous les Edge, on a parlé un peu de tout ça. On parle depuis tout à l'heure de l'Arcadium, qui est donc quand même ta salle. Hein, voilà, la salle de jeux vidéo à Bourg-en-Bresse qu'il ne faut pas rater.
On s'en fout d'Arcadium.
Ah ben voilà. Ben en même temps, sans l'Arcadium, tu ne serais pas.
Et pourtant, j'ai retrouvé des photos l'année dernière du premier Game of Edge où les PC étaient dans la salle simulateur, oui, avant que j'inverse. Et t'étais tellement concentré que t'es le seul à pas avoir regardé la photo. Donc c'était très marrant. Et en plus, il y avait Thibaut qui était avec sa couronne et la cape de roi. Là, d'ailleurs, la couronne qu'il faut ramener. Hein, parce
Bah d'ailleurs,
là, Gabin la réclame. Hein. Gabin, c'est le nouveau roi là et il la réclame.
Ah, c'est Gabin.
Ouais, c'est Gabin,
elle est dans elle est dans ma voiture, j'oublie toujours de le dire. Là, la radio, c'est l'occasion. Il y a la couronne dans la voiture, si c'est possible de la ramener chez moi, un de ces quatre. Voilà, bisous.
Et t'as oublié de dire merci maman.
Ouais, c'est oui, ça, c'est merci maman. Ouais.
Mais je suis un peu moi j'ai oublié.
On dit merci à la maman de Seb.
Qui est d'ailleurs très joueuse d'Age of Empires.
Donc, oui, pour en revenir, je pense que tu veux parler un petit peu de la salle et de Age of Empires. Après, je sais pas, si vous voulez que je fasse un petit peu de pub, je peux faire un petit peu de pub.
C'est le but là, c'est
merci Max.
C'est ton moment.
Merci. Alors, effectivement, la salle de jeux vidéo a ouvert il y a de ça 2 ans. Elle est située 2 rue Clavagry, donc juste à côté de l'hôtel de Meillonnat. Et entre la mairie et la préfecture, je vais y arriver. Il y a un parking gratuit à partir de 19h, donc qui est le parking de la préfecture. Et c'est une salle de jeux vidéo où on va retrouver de l'arcade, des simulateurs de conduite, des PC gaming, des consoles de jeux, des bandes d'arcade. C'est une salle qui se veut conviviale et sociale. Elle est accessible à tous avec des prix qui sont très compétitifs. On peut passer une heure ou on peut passer des après-midi ou des soirées complètes. Et effectivement, c'est une salle où chaque mois, il y a une Game of Edge. Je l'ai appelée comme ça en hommage à Game of Thrones, hein, parce que pour moi, il n'y a qu'un seul roi. Un seul peut devenir roi. Et qu'on soit débutant ou confirmé, on est là pour passer avant tout en fait, un bon moment. Je pense que Sébastien va me rejoindre dessus. Oui. On n'est même plus trop dans cette recherche de compétition. En fait, c'est de retrouver des passionnés de ce jeu de stratégie, de ce jeu mythique, et qu'on puisse passer un moment ensemble, un moment convivial. Et tout en se chariant
t'as
un petit peu.
T'as vu comme il savonne, hein, là.
Je serre les dents pour pas parler de la réalité des choses. Ouais. C'est la sommelier qui a fait 3 piquets. Mais qu'est-ce que tu fous, imbécile.
Il peut avoir quelques axes de tension. On va super. J'étais en train de fédérer des nouveaux joueurs de Edge. Il a tout foutu en l'air. Mais
tu veux fédérer quoi? De toute façon, sachez que pour les Game of Edge, il n'y a que 3 rois possibles.
Et il m'a oublié ou quoi?
Oui,
j'ai porté
et
cette
moi.
Couronne, malheureusement.
Seb, Thibaut et moi.
Mais toi, oh mon dieu,
je suis
le
roi en
dingue.
Devenir.
Non, alors Sébastien, qui est ici présent, effectivement, est le roi des rois parce qu'il a apporté plusieurs fois la couronne. On a eu Thibaut qui a été roi. J'ai eu l'occasion et la chance d'être roi.
Une seule fois, non, c'est ça?
Oui, parce que bah, moi, je, bon, bah alors, attendez, que tout le monde l'entende à la radio et que ça soit enregistré. Et je pense que beaucoup de commerçants vont être d'accord avec moi.
J'effacerai l'émission.
Il y a un moment, il faut qu'il y ait une priorité client. La priorité client, quand on a des joueurs qui viennent jouer à Edge et qui sont débutants, on les laisse se développer. On cherche pas à les écraser pour les dégoûter de venir à la salle.
Donc bon, c'est mon pour objectif ça que tu premier.
Dans 5
minutes,
non, c'est pas vrai, c'est des conneries. Mon objectif premier, c'est avant tout la santé de ma salle au détriment de ma qualité
joueurs.
De jeu. Non, la santé de mes joueurs et au détriment de ma qualité de jeu. Malgré tout, j'ai réussi à remporter une fois la couronne. Et là, le dernier roi en date, parce que Sébastien était un petit peu fatigué, il avait besoin d'entrer, c'est Gabin. Gabin qui, pour moi, le mérite. Parce que c'est un joueur qui est issu de StarCraft à la base, un des concurrents de Age of Empires en jeu de stratégie, et qui est très très rusher et qui joue une civilisation qui s'appelle le Sultanat de Delhi et qui est très fan des éléphants. Voilà.
Gabin qui est fan des éléphants ou le Sultanat de Delhi?
En fait, à la base, moi à la base, on m'a invité pour parler de ma salle. Et en fait, là, je vois qu'on est en train de parler des joueurs de ma salle. Les joueurs de ma salle ont une importance.
Oui, voilà.
Parce que sans les joueurs de ma salle, il n'y aurait pas de salle. Donc je vous invite tous, peu importe votre niveau, à nous rejoindre sur du Edge of Empire, parce que c'est l'objectif de l'émission. Mais effectivement aussi, c'est de venir découvrir la salle, parce qu'on est voilà, une salle qui a potentiellement une bonne ambiance, je pense, hein, même si aujourd'hui, ils me jettent la pierre, comme si j'étais le pire torsionnaire au monde.
Parce qu'on sait que Sébastien est pas
quelqu'un. Mais bien sûr, je suis en train de me victimiser. Depuis tout à l'heure, on dit que je suis en train de violenter les joueurs de Edge of Empire, mais c'est
du n'importe. Le roi Sébastien victimise toutes ses... potentiel, victime. Voilà, il...
Les gens dans la pièce, vous êtes tous des victimes.
Voilà, c'est ça. Tu es le roi victimiseur.
C'est vrai que c'est vrai qu'il a un effet hein, quand il rentre dans la salle on a beaucoup de joueurs qui le craignent qui essayent de comploter pour le renverser qui essayent de trouver des solutions et du coup malgré tout ça malgré tous les complots mis en place il s'en sort une nouvelle fois vainqueur.
Non mais on va y arriver, on va réussir à le renverser. Ah là là, est-ce que tu parlais donc rapidement, très très rapidement, des horaires de la salle justement?
Oui, bien sûr, merci de me le faire rappeler Max, ouais. Parce que c'est quand même le plus important. Alors la salle, à partir du mois de mars, elle va être ouverte donc le lundi et le mardi uniquement sur réservation. Le mercredi, elle sera ouverte de midi à 22h. Du jeudi au samedi, elle sera ouverte de midi à minuit. Et le samedi, elle sera ouverte de 14h à 21h. Or, période scolaire.
Dimanche, non?
Dimanche, merci Max de me reprendre. Et en période de vacances scolaires, elle sera ouverte non-stop de midi à minuit, 7 jours sur 7.
Donc maintenant, il ne reste plus qu'à l'État de nous décréter les vacances scolaires pour l'année complète. Et ce sera
ça serait magnifique.
C'est sûr. Ah là là. Donc, je vous annonce, chers auditeurs, que notre grande fresque stratégique touche à sa fin. Ce soir, on aura donc voyagé à travers les siècles, des premières civilisations antiques aux champs de bataille médiévaux, aux grandes explorations des empires renaissants, en explorant l'univers mythique donc de Edge of Empire et de toute sa légendaire saga. Parce que oui, c'était une saga, concrètement. C'est une licence qui aura marqué grand nombre de joueurs, dont vous et moi maintenant, bien sûr. Hein, même si j'espère bien jour devenir roi un petit peu, hein, on sait jamais, hein, pourquoi pas. Parce que Age of Empires, c'est pas juste un jeu, c'est quand même clairement une ligne de vie pour certains. Il y en a qui auront passé leur vie dessus et qui sont devenus des maîtres dans le genre. Il n'y a qu'à voir certaines vidéos passées où les gars sont des tueurs, ça c'est sûr. Je vous remercie franchement d'être venu... animer avec moi cette petite émission, hein, mon petit Mike et le vieux Seb.
Cool.
Franchement, c'est cool de vous avoir avec moi.
Et bah, moi, je te remercie aussi, Max, et je remercie encore une nouvelle fois Radio B de cette invitation. Et merci, Sébastien, d'avoir été indulgent et de ne pas avoir dit de bêtises à mon sujet. J'aurais aimé quand même que tu donnes un peu plus de valeur à mon image sur mes parties de Edge, mais...
C'est une incitation, faut que je finisse là-dessus là.
Oui, finis là-dessus, c'est
tout
le temps une perche.
Ne finis surtout pas là-dessus, regarde. Je te rappelle qu'il finit jamais dans les 10 premiers. Donc
comment?
Tu vois, j'allais faire une éloge là qui allait te mettre en valeur.
Ah, je l'attends. Ah, merci. Je suis tout oui.
Je dois dire que ma vie a complètement changé depuis que je suis. J'ai découvert Arcadium, j'ai découvert plus qu'un humain, j'ai découvert un partenaire, un collègue de jeu, une personne passionnée qui m'en apprend chaque jour sur l'histoire. de ramener vos enfants pour les éduquer à l'histoire, puisque c'est un puits de connaissances, notamment sur la bataille d'Azincourt. Il aimera répéter que la cavalerie française et les archers anglais, blablabla. Bon, je lui laisserai, je ne vais pas spoiler, parce que c'est ce qu'il nous répète en boucle depuis des mois.
Un coming out gaming, c'est beau.
Donc voilà, venez amener vos enfants à Arcadium pour qu'ils apprennent les belles leçons historiques de Mike, en plus de profiter de ses panini délicieux.
Fait maison.
Tu vois, c'est bon, là, ça va.
C'était parfait.
C'est magnifique.
Voilà.
C'est...
Merci.
Bon, alors, chers auditeurs,
ta feuille, maintenant que j'ai fini de lire.
Les auditeurs le savent pas, mais donc notre aventure ne s'arrête pas là tous les trois. Hein, voilà, parce que juste après cette émission, on prend la route de l'Arcadium pour une soirée un petit peu spéciale. Une nuit qui promet d'être festive, intense et mémorable. Oui. Un petit peu comme une partie de Edge of Empire qui se termine à l'aube après un siège interminable. Donc, voilà. Pour ça, vous pouvez soit après cette émission foncer à l'Arcadium pour nous rejoindre, ou alors. Allez-y, un autre jour, vous serez extrêmement bien accueillis, ça c'est sûr. Et notez donc dans vos calendriers, chers auditeurs, que nous nous retrouverons dans 15 jours pour une nouvelle émission, puisque à l'occasion du mois de mars, je mettrai à l'honneur les femmes dans le métal dans une émission spéciale, riche en découvertes et en émotions.
C'est génial ça.
Un rendez-vous important, inspirant et profondément nécessaire. Et du coup, Seb, en tant que femme, tu pourras venir quand tu veux.
Ça roule.
L'Oréal, parce que tu
le
bien.
Métal.
C'est ça. En tout cas, merci à vous d'être venu. Clairement, c'était extrêmement
merci.
Cool de vous avoir. Et
ah, c'était très sympa.
À refaire sur d'autres jeux, peut-être.
J'en ai pas plus appris sur les stratégies de Sébastien. Donc,
moi, je suis pas mégalomane, j'ai pas ce besoin d'étaler.
Non, mais moi, je pense que tu allais parler un petit peu, voilà, de la manière que tu évolues et que tu arrives à créer aussi rapidement. Autant de cavaliers à l'âge 3, mais c'est
j'en parlerai tout à l'heure. Pas non plus.
J'avais pris des notes, j'avais acheté un petit cahier exprès pour prendre des notes, mais apparemment je peux aller me faire rembourser parce que.
Il est comme ma stratégie dans Edge, vierge.
Je vais écouter le replay aussi, je vais tout prendre des notes.
Chers auditeurs, d'ici là, prenez soin de vous, continuez à bâtir vos projets comme on bâtit un empire avec patience, stratégie et audace. Que vos ressources soient abondantes, que vos murailles tiennent bon. Et que l'histoire vous soit toujours favorable.
C'est lui qui fait l'horoscope, en fait. C'est lui qui fait l'horoscope.
C'est ça. En attendant, j'ai qu'une chose à dire pour terminer. Wololo, et à bientôt.